Bonsoir, bienvenue au podcast Par la bande. Ça nous fait plaisir encore une fois de vous accueillir ce soir pour cette émission numéro 6 en ce 20 novembre 2023 en direct des magnifiques studios de Nous TV Le Fjord. Je suis en compagnie ce soir encore une fois de mes co-animateurs Marco Hood. Bonsoir Marco.
Allô mon Jeff, ça va bien?
Ça va bien toi?
Ça va très bien, merci.
Luc Boudreau.
Salut les gars.
Comment ça va?
Ça va très bien vous autres?
Excellent, excellent, yes. Très bien. Alors, avant de vous présenter notre premier invité, je vous présente un petit peu la façon de fonctionner de notre émission, de notre podcast, notre balado. Alors, les façons de nous écouter, évidemment, en direct sur les ondes de Nous TV, pour ceux qui le peuvent, dans le Bas-Saguenay, donc Nous TV Le Fjord. Et également, c'est en rediffusion sur les ondes de Nous TV Le Fjord durant toute la semaine. Et également, pour nos amis du lac, consultez votre horaire local du côté de Nous TV. Également, en diffusion, en direct. Direct sur Facebook, sur notre page Podcast par la bande également. Vous pouvez vous abonner à notre page Par la bande, qui est notre page de discussion sur le hockey, si ce n'est déjà fait. Et également, dans les jours suivants, assez rapidement dans la semaine, l'épisode est disponible sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Spotify et YouTube. Alors, messieurs, je vous présente immédiatement notre émission, encore une fois, qui est une émission très complète.
Chargée.
Donc,
hein?
Chargée, absolument. Nous allons avoir, dans le deuxième segment, deux jeunes joueurs des Saguenayens, deux jeunes joueurs qui font déjà lever les spectateurs de leur siège souvent cette année. Il s'agit d'Émile Guitté et Nathan Lecomte, qui vont être avec nous, qui arrivent tout fraîchement également du championnat mondial U17. On va en reparler tantôt. Et à la fin, nous aurons notre segment où est-ce qu'on va discuter un petit peu plus là, de nos équipes régionales, de différents sujets à la fin de l'émission. Mais je vous et à la réussite. Bonjour Étienne, comment ça va?
Bonjour, ça va. Hey,
Jeff,
bien,
tu peux prendre une pause. Jeff, de
t'as bien parti quand même.
C'est parfait, Jeff.
Ouais, c'est compliqué un peu.
On a une tâche qu'on ne veut pas faire, fait que c'est parfait.
Donc, le titre vient-tu avec l'ouvrage? C'est-tu compliqué?
Oui, le titre vient clairement avec l'ouvrage.
J'imagine. Alors, la raison, Étienne, pourquoi on vous a à l'émission, c'est évidemment cette conférence-là que vous avez monté, que vous avez donné, qu'on a eu plusieurs bons commentaires là-dessus. Alors, est-ce que ça fait longtemps que tu travaillais sur ce projet-là?
Bien, en fait, je suis psychologue de formation, oui. De la psycho du sport, ça doit faire plus d'une vingtaine d'années que j'en fais. Je dirais que ça s'est développé avec le temps. Au départ, j'ai commencé à en faire quand je coachais au séminaire Saint-François au football. En 99, j'étais fraîchement nouvellement psychologue, puis un de mes amis avec qui je coachais m'a dit hey, tu nous donnerais pas ça, toi, une conférence à psycho du sport? Puis j'avais un intérêt déjà, mais j'étais un psychologue clinicien, puis je me suis dit oui, je vais vous faire ça. Puis j'ai commencé à ce moment-là. Puis rapidement, là, par la suite, je me suis mis à en donner un peu partout, à donner, puis ça s'est transformé avec le temps. Je me suis mis à donner des conférences, à faire de la formation, à faire du mentorat avec des coachs même. Puis j'ai une petite pratique clinique aussi avec des athlètes eux-mêmes. Là. Donc, tu sais, ça fait très longtemps, bien très longtemps. En tout cas, moi, j'aime pas ça dire ça fait très longtemps, mais ça fait au-dessus d'une vingtaine d'années là, que je fais ça maintenant.
Et dans cette conférence-là, le sujet principal que tu abordais, là, ça tournait autour de quoi?
Oui, ça tournait. En fait, l'idée de départ, c'est que ça devait tourner autour des parents. Ça devait tourner autour de la relation entraîneur-parent, qui est une relation vraiment importante dans le sport amateur. Et donc, l'idée, c'était de sensibiliser les entraîneurs au fait de, ben, les parents, ils sont dans l'écosystème. Tu sais, quand on coach, on peut pas ignorer les parents. Faut les inclure, j'ai envie de dire, le plus possible. Puis maintenant, c'est à tous les niveaux. T'sais, on s'imagine, chez les jeunes, c'est presque naturel. T'sais, 8, 10, 12 ans, on inclut les jeunes. Mais maintenant, c'est à des niveaux très, très élevés. Les parents sont inclus.
Ben oui, en fait, on parle de haut niveau. T'sais, pour t'sais, on voit beaucoup de matchs. On a quelques contacts aussi dans le hockey midget 3, puis junior majeur aussi, heureusement ou malheureusement. Puis on voit que de plus en plus, les parents s'impliquent, et puis s'impliquent peut-être pas toujours de la bonne façon, on s'entend, des fois de la bonne aussi. Mais avant, moi, il me semble dans notre temps, les gars, qu'à partir de Bantam, là, les parents disaient « tu joues, puis excusez le terme, tu sommes ta gueule. »
Ton coach a raison, hein, si ton coach l'a fait.
Maintenant, c'est le contraire, tu sais, c'est qu'on va voir les directeurs-gérants des équipes, on va voir les entraîneurs-chefs, on va voir les présidents, Puis quand ça fait pas l'affaire, on le dit.
Oui.
Ben, non?
Oui et non.
Puis ça peut être bon de dire qu'une situation qui n'est pas correcte.
Absolument, correct, c'est ça.
Fait que c'est le dosage.
Ben, exact. Il y a beaucoup de dosage parce que c'est vrai. Tu sais, on est dans. Maintenant, on sait beaucoup mieux qu'on savait avant. Il ouais. Y a ça. Ça, c'est une chose. Avant, je pense que, tu sais, quand on disait, ben là, c'est l'entraîneur qui a raison, puis c'est tout. On fonctionnait sur un paquet de présomptions, puis c'est l'entraîneur qui le sait, mais aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas juste se fier à ça. C'est sûr que toutes les situations d'abus, il faut vraiment les dénoncer, puis ça, il faut intervenir comme parent. C'est notre responsabilité première. Je pense que les parents veulent s'impliquer, puis il faut maintenant être conscient de ça, puis c'est correct aussi que les parents s'impliquent. Mais il faut faire la distinction aussi, mais les parents ne coachent pas. T'sais, les parents peuvent s'impliquer, là, puis on veut qu'ils s'impliquent, mais ils n'ont pas à coacher. Puis souvent, malgré eux, j'ai envie de dire, parce que c'est souvent malgré eux, les parents, ils veulent bien faire. Là. Souvent, ils interviennent puis parce qu'ils ne savent pas trop comment. T'sais, fait que là, ils interviennent, puis ils posent des questions, puis ils s'en mêlent un peu, puis là, l'entraîneur se dit « Ah, c'est bien tannant », mais non. Dans le fond, il faut donner un rôle aux parents. Puis ça portait là-dessus la conférence okay. que j'ai faite.
La conférence, je ne sais pas si tu l'as dit, Jeff, c'est pour les entraîneurs du hockey mineur.
Exact. Non, je ne l'avais pas dit. Je ne l'avais pas dit. Donc, tu fais bien de le mentionner, Luc. J'ai immédiatement une question qui me vient, Étienne, par rapport à ça. Quand tu mentionnais que les parents, des fois, bon, vont peut-être outrepasser, vont vouloir coacher. Est-ce que ça peut être relié maintenant? Bon, on parle toujours. Bon, il manque de monde au niveau de l'implication aussi. Dans le sport, que ce soit au hockey, que ce soit au baseball, que ce soit au basket, n'importe quel sport, on manque de souvent. Et de plus en plus, on a des jeunes qui vont coacher, des jeunes entraîneurs, des fois de 20 ans, de 18 ans, de 17 ans, de 25 ans et moins. Est-ce que des fois, les parents qui vont être peut-être d'une génération plus élevée qu'eux vont avoir tendance à dire « il me semble qu'il connaît pas ou qu'elle connaît pas ça » ou que est-ce que ça peut avoir un lien, ça?
Bien, ça pourrait avoir un lien, mais je dirais que déjà, on est dans une pente glissante quand on embarque dans ce jeu-là. Oui. En fait, l'idée, je pense qu'il faut que les entraîneurs prennent leur place. T'sais. Une des difficultés avec le fait d'être entraîneur, c'est honnêtement, on demande des formations. Il y a des formations maintenant techniques, tactiques, qui avec le niveau, sont très bons. Mais au point de vue des relations humaines, je te dirais, les formations, à mon avis, pourraient être encore améliorées. Vraiment. Maintenant, les parents qui veulent s'en mêler parce qu'ils disent « Ah, c'est un jeune coach, il manque d'expérience. » Moi, je pense que c'est aux entraîneurs à prendre leur place dès le début de l'année et à dire « Écoutez, vous avez des responsabilités, j'ai des responsabilités, on a chacun notre rôle. »
Mais c'est pas facile pour un jeune entraîneur de faire ça.
Les jeunes entraîneurs doivent se sentir appuyés, doivent se sentir outillés, puis ça fait partie des problématiques. Tu sais, où les jeunes, j'ai 17, j'ai 18 ans, je veux bien coacher, je veux bien donner un coup de main, mais moi, je sais pas trop comment faire. D'où l'importance de s'assurer qu'on appuie ces entraîneurs-là.
Là, on parle de pénurie de main-d'œuvre ou de bénévoles, évidemment, ouais. Là, qui touche tous les sports. Évidemment, on essaie d'en faire plus au niveau théorique, tactique, etc. Ouais. As-tu l'impression, Étienne, qu'on en fait un peu mieux maintenant, où on comprend un peu mieux l'aspect psychologique pour... Justement, tu donnes des conférences aux jeunes coachs, aux hockey mineurs. Est-ce que ça a évolué dans le bon sens? Même si c'est sûrement pas parfait,
mais vraiment, je te laisse aller. Mais vraiment, ça a vraiment bien évolué. On sait beaucoup plus de choses qu'on savait. On sait comment se comporter maintenant pour développer les jeunes, comment on peut maximiser leur développement, comment on peut faire en sorte qu'ils aient du plaisir tout au long de leur parcours, parce que ça demeure un enjeu très, très important. Tu sais, les jeunes font du sport pour avoir du plaisir, puis la première raison pour laquelle ils arrêtent, là, c'est parce qu'ils n'ont plus de fun. Tu sais, mais puis ça, on le sait aujourd'hui, ça. Je pense que là où les formations, puis où il faut former nos coachs, c'est là-dessus. Parce que ces connaissances-là, on en a plein maintenant là-dessus. Là. Puis là, je pense où il y a un bout à faire, c'est ce bout-là. Ou comment on fait pour leur donner ces outils-là. Puis on pourrait rapidement dévier sur le fait que reste qu'à être entraîneur, dans la majorité des cas, surtout dans le hockey mineur, c'est du bénévolat. On s'en remet au bon, puis dans toutes sortes de sports amateurs, dans le sport amateur, c'est du bénévolat, puis on s'en remet au bon, à la bonne volonté des parents qui font ce qu'ils peuvent, là. Puis réellement, des parents qui veulent mal faire, là, Je n'ai jamais vu ça ou à peu près.
Des bénévoles là, non plus. Ben, bénévoles, il y en a peut-être non. des mal intentionnés, mais en général.
Oui, c'est ça. T'sais, général. C'est ce qu'on disait. Les cas d'abus, il faut les dénoncer, mais la forte majorité des parents, des entraîneurs, qui sont des bénévoles, ils veulent bien faire. Là.
Mais tu sais, on dit que ça a changé pour le mieux, tranquillement, pas vite. Mais il y a quelque chose qui n'a pas changé. C'est la victoire à tout prix. Ouais. Je veux rentrer dans le vif du sujet c'est parce ça. Que c'est ça pareil. Puis, oui. on a, il nous reste 20 minutes. Mais ça reste que c'est ça pareil. T'sais, j'ai joué, j'ai coaché. Puis quand je perdais, j'étais en beau ciboire. Puis c'est encore ça aujourd'hui. Mais comment on fait pour changer cette mentalité-là? Puis moi, je serais pas capable de changer cette mentalité-là.
Mais c'est l'enjeu. Le vrai enjeu du sport amateur, il est là. C'est qu'en fait. Les parents puis les entraîneurs disent toujours ah, moi je veux pas gagner, je veux développer mes jeunes, puis après ça on va voir une pratique, puis on se rend compte vite là, dans leur discours, ben là en fin de semaine si il faut gagner, là en fin de semaine si on veut compter plus de buts, là en fin de semaine on veut si, puis là tu dis dans le fond tout le discours est orienté sur la victoire, dans le fond la progression du jeune, puis le plaisir, tu sais. Puis moi, quand dans cette conférence-là à laquelle qui a servi d'introduction, tu sais, moi, je vois souvent d'une déclaration fracassante en commençant en disant la victoire, là, c'est pas important. C'est pas ça qui est important. Quand on fait du sport amateur, puis même, je le disais, puis vos invités d'après, quand je travaillais avec eux, je leur disais même, c'est pas important, même à ces niveaux-là, même chez les pros, parce que. Puis c'est facile à expliquer, là, c'est qu'en fait, là, on va imaginer une situation. Ouais. On joue. On est en fin de troisième, puis c'est 3-2 pour l'autre équipe.
Coupe ton banc.
Il reste 40
Lequel
il reste,
de nous attends, trois, Étienne, tu coupes?
Il reste 45 secondes, puis t'as un icing, puis là, t'as l'occasion, là, il te reste 45 secondes, puis t'es installé. Puis l'objectif, c'est de gagner. Puis toute la semaine, vous avez parlé, là, ou tous les 2-3 jours avant, vous avez parlé de gagner. À quoi tes athlètes pensent? À quoi tes joueurs y pensent? Gagner.
Le coach aussi.
Pendant qu'ils font ça, est-ce qu'ils sont concentrés sur qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir du succès? C'est comment on fait pour avoir du succès? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va ressortir d'ici avec le sentiment qu'on est un peu meilleur qu'on était? Puis tout ce virage-là sur ne pas parler de victoire, mais parler de succès, c'est vraiment difficile. Puis ce qu'on sait en plus, c'est que quand on parle juste de victoire, qu'est-ce que ça fait? Ça encourage les comportements antisportifs. Ça encourage les comportements qui ne sont pas éthiques, les comportements de tricherie. Ça encourage le fait, quand on parle de comportements pas éthiques, là, toute l'utilisation des substances qui sont illégales, tout ça encourage vraiment ça. Okay. Ça encourage les blessures. En fait, on célèbre ce qui arrive de malheureux aux autres équipes et ce qui nous fait complètement dévier de l'objectif premier qui est le sport amateur, mais on pourrait, si on avait beaucoup, beaucoup plus de temps, on pourrait même parler du sport professionnel, parce que ça te décentre de ce qui fait en sorte que tu vas avoir du succès.
Mais on est-tu un peu hypocrite? Dans le sens qu'à tous les niveaux, je m'inclus dans la gang de coach, parce que les gars aussi.
C'est plus que coacher le plus haut niveau,
mais vous avez coaché aussi, Jeff coach encore, mais d'un autre sport. Tu sais, moi, je me souviens des speeches, puis je vois encore des coachs aujourd'hui, là, que ce soit de bas niveau, de haut niveau, là, jusqu'à junior, là, où ce qu'on dit, ah, c'est pas important, la victoire, là. C'est pas grave, là. C'est pas grave. Mais si, ouais, tu scratches trois gars que ça, tu veux pas jouer, tu coupes ton banc à mort, tu sais.
Ben oui, ben c'est parce que. Puis moi, je pense que tout à l'heure, on parlait, puis vous me disiez, est-ce qu'on sait mieux? Oui, on sait mieux. Mais ça se rend pas jusqu'à ces entraîneurs.
Est-ce qu'on agit mieux?
Agit mieux? Puis moi, je pense qu'il y a un énorme travail à faire. Puis dans ce sens-là, tu sais, est-ce qu'on est hypocrite? Bien, je pense qu'on est surtout à court de moyens comme coach. T'sais, on parle de victoire parce qu'on sait pas comment parler autrement. On n'a pas appris à faire autrement. T'sais. Fait que les premières affaires qui nous viennent, c'est on veut gagner. Ben non, pourquoi on veut pas juste avoir du succès? Pourquoi on veut pas juste s'améliorer? Pourquoi on veut pas juste faire un peu mieux? Et c'est là où la clé du développement des athlètes est là. Puis comme l'abandon sportif est un drame dans notre société, ben c'est aussi comme ça qu'on combat ça. Qu'on fait en sorte que les jeunes, à 13, 14, 15 ans, ils continuent à aimer ça. Pas parce qu'on leur dit hey, on perd, on est poche, mais on progresse, on s'améliore. Puis je suis la personne la moins jovialiste probablement que vous connaissez, mais tout ce discours-là, c'est un discours qu'il faut amener. Puis ça demande de recentrer sur « Occupez-vous pas du score. Occupez-vous de faire ce que vous avez à faire pour avoir du succès. » Ce qui est étrange, mais réellement avéré, c'est que les équipes qui gagnent le plus, si on veut parler de gagner, et les athlètes qui gagnent le plus, si on veut parler de gagner, c'est les équipes et les athlètes qui ne pensent pas à gagner.
Ah. Ça répond un peu à ma question. On progresse plus en pensant pas à victoire, mais en pensant peut-être au succès.
Exact.
Mais comment qu'on pense au succès? Je suis un coach de hockey, là, puis là, je dis, cette année, je dis, on pense pas à victoire, les boys. Mais il faut gagner, tu sais.
Ouais, on pense pas à victoire, mais il faut gagner. Non. En fait, c'est là où c'est dur.
Ouais.
C'est qu'il faut se donner un plan de développement. Puis c'est là où ça prend du temps. Puis c'est là où, quand je disais tout à l'heure, les entraîneurs ne savent pas faire autrement. C'est que c'est compliqué. Mm-hmm. Tu sais, c'est compliqué. Ça veut dire que moi, là, cette année, là, je veux qu'on se développe. OK. Ça implique quoi? Qu'est-ce qu'on veut améliorer? Quelle facette du jeu on veut améliorer? Comment on veut l'améliorer? Puis comment on va le mesurer? Parce que, tu sais, puis mesurer ça, notre mesure du progrès, ça va être quoi? Puis c'est compliqué, ça. Puis quand tu es un entraîneur bénévole, ben, tu sais, tu arrives, tu prépares ta pratique, puis tu dis, bon, ben, on fait ça. Puis tu ne l'évalues pas vraiment. Fait qu'à l'autre bout, tu dis, ben, on veut gagner. Parce que tu ne sais pas comment faire autrement. T'sais, mais je pense que ça demande de dire, puis moi, ce que je dis aux jeunes entraîneurs, c'est concentre-toi sur 2, 3, 4 affaires. C'est assez. T'sais, ce que tu veux réellement améliorer. Qu'est-ce qui va donner à ton équipe, puis qu'est-ce qui va te donner, toi, l'impression que vous avez progressé. Puis les jeunes, ce qui est encore plus étonnant, c'est que les jeunes et les parents, parce qu'on va refaire le lien avec les parents, embarquent très, très, très facilement dans une approche comme celle-là. Parce qu'il n'y a plus personne qui s'exclut. T'sais, tout le monde part du niveau où il est, là, bon, moins bon, meilleur, pas meilleur. T'sais. Tout le monde dit, OK, c'est de là qu'on part. Puis on y va, puis on va se développer. Puis ça, vraiment facilement, les jeunes adhèrent à ça, puis les parents aussi.
Pour en arriver là, est-ce qu'on ne devrait pas, surtout dans les calibres, là, simples lettres, mais je dis ça, puis je sais pas, j'ai pas de recette, là. Mais est-ce qu'on ne devrait pas simplement abolir classement, pointeur, parce que tu me demanderais d'enseigner des cliniques encore aujourd'hui, puis diviser deux gangs en deux, puis diriger ça, là, puis je le ferais probablement avec plaisir. Dès qu'on arrive dans, oh, tu sais, on a un classement, les jeunes avec Internet, maintenant, même en bas âge, sont capables d'aller voir eux-mêmes, c'est pas là un peu qu'on se perd, là, dans le plaisir?
Ben, en partie, moi, je pense que c'est terrible, tu sais, cette idée-là, là, de classer les jeunes à un très jeune âge, là, puis de vouloir,
là,
tu sais.
Ouais,
oui, tu sais. Puis bon, en même temps, est-ce qu'on peut comprendre? Je le sais pas trop, tu sais, l'idée c'était de vouloir faire progresser les jeunes à leur rythme, on serait déjà ailleurs. Tu sais, si c'était, ben, eux autres ont plus d'habileté, on va les faire progresser ensemble, eux autres, tu sais, pour créer. Bon, peut-être qu'on aurait quelque chose là, mais dans une optique où ce qu'on veut, c'est, tu sais, gagner, puis moi, je pense que ça, c'est nocif dès le départ, là. Tu sais, puis ce qu'on cause comme effet terrible, je sais pas si vous avez vu, aujourd'hui encore, il y avait une publication, là, Sport Actif, je pense, là, qui disait « Le multisport, c'est la meilleure affaire. » Puis c'est vrai, le multisport, c'est la meilleure affaire. T'sais, parce que ce que ça cause de vouloir être dans le double lettre sans arrêt, pis de vouloir, c'est que les jeunes font rien d'autre. Puis ça, c'est très, très dommageable. Là, on cause des burn-out chez les jeunes, des burn-out sportifs. Là, ça n'existait pas, là, ça, là, il y a 30 ans. Là,
de l'abandon.
14-15 ans. Les jeunes arrêtent parce qu'ils n'ont plus de plaisir, parce que c'est trop dur, parce qu'ils ont l'impression d'avoir trop de pression. Ça n'a pas de sens, cette idée-là. T'sais, la spécialisation devrait venir très plus tard. Le développement. Oui. Puis faire plusieurs sports, il n'y a pas de mal à ça, au contraire.
Hey, moi, j'ai beaucoup de questions.
Jeff qui était silencieux.
C'est parce que,
vas-y, Jeff.
C'est parce que on le dit, vous l'avez dit tantôt, moi, je suis entraîneur actuellement au basketball, et puis je me reconnais un petit peu. Moi, je pense que je suis à mi-chemin, là, je suis auto-évalué dans ce que tu dis, Étienne. Moi, je tiens ce discours-là, moi, que la victoire, c'est un résultat, OK? Qui va dépendre d'une multitude de facteurs qui vont se passer dans un match. Ce que je trouve difficile à appliquer dans ce que tu dis, puis je ne m'en cache pas, c'est que nous, l'objectif, je pense, que ce qu'on tente de faire, c'est d'amener des choses aux jeunes à travers le sport qui va les aider à grandir comme individus plus tard.
J'essaie d'appliquer ça.
Ouais. C'est un discours qu'on entend de plus en plus aussi. C'est normal.
J'essaie vraiment d'appliquer ça. Ouais. J'essaie qu'on ait du plaisir dans les matchs, dans les entraînements, en ayant du fun aussi. Ouais. Mais je ne te cache pas que je veux gagner aussi. Je ne m'en cache pas. Ah, je ne m'en cache pas. Avec tantôt, on s'en venait à l'émission. Il me dit comment ça va, ben, comment ça a été ta fin de semaine de coaching. Il me dit on a perdu par un samedi. J'étais pas fâché après les jeunes, j'étais fâché un petit peu du résultat dans un temps. Fait que, je suis honnête là-dedans, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour. C'est combiner ces objectifs-là qu'on peut avoir.
Mais tu as dit quelque chose de vraiment intéressant tantôt. Tu sais, tu as dit, dans le fond, là, ce qu'on veut faire avec les jeunes, c'est on veut leur apprendre des choses qui vont être utiles dans la vie. Tu sais, puis c'est vraiment important. T'sais, moi, je pense qu'il faut recentrer le sport amateur sur sa... Puis j'ai envie de vous dire, même le sport d'élite, sur sa première mission, qui est de former des gens, de faire en sorte que les gens se développent bien à leur plein potentiel. T'sais, moi, c'est vraiment un discours, puis j'insiste là, puis j'incite les entraîneurs là-dessus. C'est, dans le fond, l'objectif, c'est de développer des jeunes à leur plein potentiel, peu importe où ça les mène. Puis pour revenir à ce que tu as évoqué, que je trouvais très intéressant, tu sais, souvent on entend là, le sport, c'est une pratique de la vraie vie. Ce qu'on développe là-dedans, on l'utilise, tu sais, dans la vie, puis ça se transfère, puis on entend ça partout. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que, je vais y aller d'une autre grande déclaration choc, là, où on pourrait passer.
On l'enregistre.
mais comme c'est pas enregistré, puis c'est juste entre nous autres, je vais le dire. Tu sais, c'est que cette idée-là, c'est même pas si vrai que ça. Pourtant, ça a été la prémisse de base pour inclure les cours d'éducation physique au 20e siècle là, aux États-Unis. Pourquoi on inclut les cours d'éducation physique là, à l'école? Parce qu'on développe dans le sport des compétences qu'on veut utiliser dans la vraie vie. Or, la recherche démontre que c'est pas si vrai que ça. C'est... Mais là, tu sais,
t'interpelles le prof du dur en
peu,
moi.
Là, pourquoi? Mais il y a un pourquoi. Il y a un pourquoi. T'sais, le pourquoi de ça, c'est... Ça va se produire si on fait ça dans un contexte de respect, dans un contexte de non-violence, dans un contexte de progression et dans un contexte où on encourage les jeunes à développer leurs capacités. Fait que dans ce contexte-là, là, les jeunes vont apprendre des choses puis ils vont pouvoir appliquer ailleurs. Dans les autres contextes, là, c'est pas vrai qu'ils apprennent quelque chose. Cette idée-là ne tient pas la route. Quand je veux vraiment provoquer mes étudiants dans mes cours, ce que je leur dis, c'est tant qu'à ça, là, si vous voulez gagner à tout prix, puis que vous les insultez, que vous les punissez, puis vos jeunes là, sont aussi bien sur le coin de la rue que dans un gymnase. C'est pas vrai qu'ils sont mieux dans un gymnase. Parce que ce qu'ils apprennent là, c'est pas applicable. Fait que, ouais. Il faut retraquer ce discours-là, mais c'est majeur comme. Ah ben oui. Tu regardes la façon dont le sport amateur est fait, c'est majeur.
Puis tu parlais du sport professionnel tantôt, je veux dire, tout l'écosystème n'est taxé que sur la victoire. Écoute, moi, à tous les dimanches, moi, je peux te dire, je suis assis devant ma télé à écouter le football.
On peut dire que c'est
juste la victoire qui compte. Ouais,
on est sur une bonne séquence de déclaration choc, là, veux-tu que j'en fasse un autre? même chez les pros, c'est pas vrai. T'sais, vouloir gagner, c'est pas vrai. En fait, il y a des coachs, de très grands coachs, puis je pourrais dire les plus grands coachs de l'histoire, c'est des coachs qui ne parlent pas de victoire. Puis moi, ça me fait rire parce que là, le processus, il faut suivre le processus, mais dans la tête des jeunes, ça veut rien dire. Puis même des fois, dans la tête des coachs, ça veut rien dire.
La ligne est mince entre victoire et réussite, vraiment.
C'est super mince. L'idée, c'est vraiment de se centrer sur qu'est-ce qui est important, sur quoi on va aller chercher notre succès. Puis ben ça, c'est la bonne façon de faire, tu sais.
Puis j'aimerais ça, les gars, là, on voit le temps défiler, là, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Si on vient un petit peu sur la pression que les jeunes, mettons, déjà 3 juniors majeurs, peuvent vivre à cet âge-là, tu sais. Puis nous-mêmes, des fois, je me remets en question, tu sais, on analyse les matchs des élites, des sacs, de la Ligue, peu importe. Puis on analyse aussi juste le résultat, hein, 3 défaites en fin de semaine, ils n'ont pas bien joué, puis... C'est-tu correct ou...
C'est une bonne question, puis il y a quand même une chose qu'on a toujours dit, Luc, on critiquera jamais un gars de 16-17 ans.
Jamais.
Non,
18,
ça,
oui,
c'est clair.
Pas
en tout cas, si le gars a 20 ans, puis un comportement, tu sais, manque de discipline, c'est une chose, là. Mais en tout cas, c'est quand même important de remettre ça en perspective.
Tu sais, on a l'air tough, mais moi, ça me fait quoi, là?
Au sax, dans notre coin, là, c'est pas... En tout cas, c'est assez constructif, là. Il y a personne qui va crier.
Ouais, mais ça dépend de la section.
Ça dépend de la section.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est terrible. Ça nous... On a coaché ou on coach, là, puis ça nous frise les oreilles d'entendre qu'est-ce qu'on entend.
Mais tu sais, est-ce qu'on est trop dur? Ben, en fait, je pense que changer cette culture...
C'est trop compliqué? Ben, vas-tu trop loin?
Non, non, c'est, okay. Mais c'est vrai. C'est vrai. Puis quand je parlais du rôle des entraîneurs, moi, je pense que... Puis là, je vais revenir aux parents. Il faut l'expliquer aux parents, ça, que cette année gagnée, c'est tel que tel. On s'en occupera pas tant. Ce qu'on veut, c'est progresser. Puis quand on analyse les choses... Moi, je pense que, puis en plus, c'est beaucoup plus intéressant l'analyser sous l'angle du succès. Le problème, c'est que le résultat visible, c'est le score.
La victoire.
Oui.
C'est le score. C'est ça. Mais dans les faits, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux ou de moins bien. Mm. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a moins. Puis, mais ça, c'est moins.
C'est moins tangible.
Ouais, hein? Tu sais, puis c'est moins glamour aussi. Ouais. C'est bien plus facile de dire, hey, ils en ont perdu trois tout de suite, ça marche pas pour tout. Tu sais. Alors que dans les faits, peut-être que l'équipe a progressé. Puis on le voit, ça, des fois, là. Tu sais, une équipe qui perd, puis qui progresse, puis tu dis, un moment donné, ça va payer, un moment donné, ça va marcher, c'est pas grave. Tu sais. Et donc, moi, je pense que c'est sous cet angle-là. Puis comment on fait pour changer ça? Moi, je pense que ça passe en partie. En partie par vous autres, tu sais, j'ai envie de dire. Ben ah, oui.
Ben, honnêtement, ça me frappe un peu. Je pense qu'on va finir l'émission de même. On n'analysera plus. Non, mais peut-être l'analyser, tu sais, des fois. Mais à notre défense, on a bien des défauts, mais on est capable d'analyser la game. Ben fait oui. Tu sais, comme j'étais allé au Marquis en fin de semaine, puis ils ont perdu, mais ils ont joué un bon match en l'ensemble, tu sais, je pense que...
Mais c'est ça. Mais c'est pas la même chose que dire qu'ils ont perdu. Ben okay. C'est un résultat. Là. Le résultat, c'est qu'ils ont perdu. Bon, ouais. Ils ont perdu, mais une fois qu'ils ont perdu, on peut-tu regarder ce qui s'est passé? Là?
C'est la façon d'analyser puis de l'amener qu'il faut changer aussi.
Oui, 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 vraiment, vraiment, vraiment.
Hey, nos résumés mais vont aussi être beaucoup plus longs, là, Luc. Là.
Mais c'est, le, mais c'est matchs, ça le défi. C'est bien plus difficile.
L'autre défi, je me permettrais d'ajouter que... Quand on a les joueurs eux-mêmes, OK, les joueurs eux-mêmes veulent gagner. Souvent, surtout rendus plus. Moi, tu sais, je suis un petit peu plus avec dans le 15-16 ans environ, là. Puis les parents aussi, tu sais, puis pas pour mal faire. Mais c'est ça notre défi.
Mais ça, ça aussi, là. Puis ça, il y a beaucoup de travail à faire avec les athlètes, là. Tu sais, cette idée-là, là, de vouloir gagner, puis de vouloir gagner, puis je l'entends, là. Puis, tu sais, je l'ai entendu dans mon bureau, puis dans les équipes, tu sais, hey, c'est mon année de draft, là, faut que je joue bien, faut que je fasse des points, faut que ce soit ci, faut qu'on gagne. Mais ça, c'est de la poudre aux yeux, là. C'est parce que tant que tu penses à ton draft, ou tant que tu penses à tes points, penses-tu à ce qu'il faut que tu fasses pour être meilleur? Zéro but de barre. La seule affaire qui t'intéresse, c'est, hey, là, j'ai-tu scoré, j'ai-tu un point, j'ai-tu dans le positif, j'ai-tu joué sur la première unité, sur le power play, c'est pas ça. Et tout ça décentre de... C'est quoi la vraie mesure du succès? T'sais, la vraie mesure du succès est où, dans le fond? Puis, mais c'est un travail immense. Puis des jeunes là, qui se laissent absorber par ça, là, puis détruire par ça, il y en a plein.
Ouais. C'est pas tout, peu importe le niveau, là, c'est pas toute ta chambre qui veut gagner à la même hauteur. T'en as qui veulent vraiment gagner le dos.
Gagner, c'est quoi?
C'est quoi? Oui.
Ah ouais. Définis avoir du succès.
Le gars qui sait qu'il ne sera pas repêché, lui, là, je veux dire, gagner, c'est quoi pour lui?
Puis tu sais, gagner, puis encore, gagner, c'est quoi? Tu peux savoir, puis moi, quand je coachais, puis c'est ça que je disais toujours, bon, je coachais du football, je coachais pas du hockey, puis peu importe le niveau, je disais toujours, à l'époque, c'est le Rouge et Or qui était très fort. Puis je disais toujours, moi, demain matin, je m'aligne contre le Rouge et Or, je m'en fous, parce que ce que je veux, c'est une mesure du succès. Ce que je veux, là, c'est quand on va... Quand on va s'aligner la dernière fois, je veux qu'on s'aligne mieux qu'on s'est aligné la première. Je veux qu'on réagisse mieux qu'on a réagi la première. Fait après ça, le reste, c'est-tu si grave que ça? Là, c'est sûr que c'était pour attirer, c'était un exemple un peu grotesque pour m'assurer que les jeunes comprennent. Mais finalement, contre qui tu t'alignes, c'est-tu si grave que ça? Ben non, occupe-toi de tes affaires. Développe ta propre mesure du succès, puis ce que les jeunes ne comprennent pas, c'est que la clé, là, c'est que tu vas gagner bien plus.
Comme le dit un certain coach connu, apporte ta game dans la game.
Oui.
Ça va marcher. Il va se passer quelque chose.
Et si je résume bien, là, je vais te donner un exemple concret, Étienne. Je reviens à mon exemple. Bon équipe, bon, samedi, j'en parlais avec Luc tantôt, mes joueurs ils ont eu de la difficulté avec la qualité de leur passe. Okay, ouais. J'ai trouvé qu'il y avait un... Donc, ce que tu me dis, je pourrais arriver pour le match de vendredi et donner un objectif à mes jeunes. Aujourd'hui, les gars, je regarde la qualité des passes. puis à la fin du match, ça a mieux été, ben on peut dire, regarde, on a amélioré ça, puis on va vivre avec le résultat qui va arriver à la fin du match.
C'est un des objectifs, tu sais, c'est un des objectifs, tu sais, normalement dans une saison, tu devrais avoir, tu sais, des objectifs de technique et tactique, tu sais, qu'est-ce que tu veux techniquement faire, qu'est-ce que tu veux tactiquement faire, puis d'où tu pars, puis où tu veux aller, puis comment on va le mesurer, tu sais, puis il y en a des choses que tu peux mesurer, tu sais, comme l'intensité. L'intensité, ça se mesure très facilement. Oui. Puis ça, là, tu peux en avoir une mesure de progression en fonction des moments de la game, en fonction du... Tu sais, ça, tu es capable là, facilement. L'engagement, la communication, il y en a pour des entraîneurs là, qui n'ont pas tant de temps que ça, qui des éléments faciles à mesurer qui sont ultra payants par ailleurs. Oui. L'intensité, oui. La communication, quelques objectifs techniques, quelques objectifs tactiques. Puis moi, je pense qu'il y a, de très haut niveau où tu peux fonctionner avec ça. Il
faudra réinviter Étienne. Oui.
Hey, on a beaucoup de questions. On a même pas parlé des Inuk. Puis t'es succès avec le programme.
Ah, ça va me faire plaisir.
Ouais, vas-y, Marco, avec ta question sur les Inuk.
Non, je n'avais pas de question.
Ils ont deux matchs à jouer.
Oui, c'est ça.
Exactement. Non, c'est ça, quoi. On pourrait. C'est extrêmement intéressant, Étienne. Ouais. Alors, on te remercie beaucoup de ta présence à l'émission.
Merci à vous autres.
C'était extrêmement agréable. Puis, assurément qu'on va reprendre ça.
On va mijoter ça.
Ah, ça va être avec plaisir. Oui, vraiment.
Beaucoup de choses à appliquer.
Parfait.
Donc, Étienne Hébert de Lucac, merci beaucoup. De notre côté, on va à la pause. De retour dans une minute avec Nathan Lecomte et Émile Guittet.
Best Buy est la destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy Chicoutimi.
Nous TV, une tribune qui vous ressemble et vous rassemble. Du contenu exclusif produit par et pour les gens de chez nous. Depuis plus de 30 ans, Nous TV, HD 555 ou Epico 100 pour abonnés Cogeco seulement.
Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à l'Abbé.
Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. BroderieML.com 418-973-9987.
De retour au podcast Par la bande pour notre deuxième segment de notre émission de ce soir, l'épisode numéro 6. Ça nous fait extrêmement plaisir de recevoir deux jeunes joueurs des Saguenayens, deux recrues que vous connaissez assurément, Nathan Lecomte et Émile Guittet. Bonsoir les gars.
Bonsoir, ça va bien?
Ça va très bien, ça va très bien vous autres?
Nathan aussi, oui. Super bien.
Excellent, merci, boys. Super, excellent. Les gars, écoute, on a beaucoup de choses à jaser avec vous. Tout d'abord, écoute, moi j'aime ça commencer par, comme on dit, par le commencement. Je vais peut-être commencer par Nathan. J'aime ça connaître le parcours des joueurs qu'on reçoit ici à l'émission. Si on parle du hockey mineur, est-ce que, puis par après, Émile pourra également répondre un petit peu à la même question. Est-ce que toi, dans ton parcours, Nathan, t'as toujours, et tantôt on parlait avec Étienne un petit peu, des niveaux élites, double lettre, j'imagine que t'as pas mal toujours été dans ces niveaux-là, puis dans quelle région que tu évoluais au hockey mineur?
Moi, dans le fond, j'ai fait mon hockey mineur à Châteauguay avec les Grenadiers, de tout petit jusqu'à midget, dans le fond. Comme t'as dit, ouais, j'ai été souvent dans les hauts niveaux, tu sais, Novessa, Atomdura, puis oui, Bantam, j'étais souvent dans le top niveau. Puis Midget aussi, Midget 3A, j'ai joué deux années Midget 3A pour les Grenadiers de Châteauguay.
C'est quand, Nathan, que tu t'es rendu compte ou tu t'avais dans l'idée peut-être d'aller percer ou tu voulais progresser dans le hockey d'un niveau où ce que t'es rendu là? Je pense que c'est le rêve de plusieurs jeunes, là.
Honnêtement, ça m'est venu à l'idée, je dirais, ma première année midget. Tu sais, je me suis dit, OK, là, c'est quand même gros. Tu sais, je suis rendu midget, c'est niaiseux, mais les rides dans le bus, c'est avec l'équipe, c'est pas avec tes parents. Tu sais, ça commençait à être un peu pro-style, je dirais. Là. Fait que c'est un peu à ce moment-là que je me suis dit, OK, j'ai peut-être une chance, tu sais, de poursuivre plus haut.
Donc, c'était ton année, excuse-moi, même 14 ans, là, t'as joué 14 ans
midget. Donc, t'as joué
peut-être
qui est quand même rare.
Ouais.
Vas-y, Marco.
Non, c'était exactement le constat que j'allais faire.
Excellent.
Puis la deuxième saison de Nathan, c'est une grosse saison M18.
Wow, ouais, ça a été
meilleur marqueur de la ligue.
Exact.
Dans une équipe qui n'était pas nécessairement dans les hauts du classement. Là, c'est effectivement, ça a été une grosse saison. De ton côté, toi, Émile, dans quel secteur tu évoluais au niveau du Québec?
Ouais, ben moi, c'était Chambly. Donc, dans le fond, mon hockey mineur, je l'ai fait à Chambly. Puis, rendu Pee-Wee, c'était rendu à Saint-Hyacinthe. C'était le vert et noir de Saint-Hyacinthe. Puis, dans le midget, j'étais encore à Saint-Hyacinthe avec les Gaulois. Donc, moi aussi, j'ai pas mal joué toujours dans le plus haut niveau. Puis, je pense que c'est Pee-Wee 3 relève que j'ai comme compris que j'étais quand même pas payé vu que c'était la première année que je me faisais surpasser. Puis, c'était quand même avec beaucoup de gars de plusieurs régions. Fait que c'est là que je pense que j'ai compris que j'avais quand même un bon potentiel. Puis, tu sais, mon année midget 3 aussi, ça a bien été. Le repêchage, tout. Fait que, ouais, c'est pas mal
puis,
ça.
Puis, ce qu'il y a de particulier, Émile, dans ton cas, c'est que l'an passé, je pense que votre équipe, là, à Saint-Hyacinthe, vous avez marqué l'imaginaire un peu au Québec avec Caleb Desnoyers. Puis toi, on parlait beaucoup, beaucoup de votre équipe avec la saison que vous avez eue, puis le championnat à la fin. Ça a marqué beaucoup les esprits là, au niveau du hockey au Québec. Là. L'année passée, ça devait être spécial quand même.
Ouais, c'était vraiment spécial. Tu sais, au début de l'année, on n'était pas vu comme être la meilleure équipe de la Ligue, dans le fond, mais c'est plus vraiment un challenge ici à la baie qu'on a percé, on l'a gagné. Après ça, après les fêtes, on a commencé à bien jouer.
Vous avez gagné sur tout un comeback en plus.
Ouais,
j'étais à ce match-là, parce que l'aréna est juste en arrière.
Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il fallait gagner contre Jonquière par 3 buts pour aller en quart de finale. Puis dans le fond, on a gagné 6-3. Puis après ça, on a juste gagné. Puis en finale aussi, on perdait de l'arrière 3-0.
Après la deuxième.
Ouais, on a perdu. On tirait de l'arrière 2 fois par 3, puis on a réussi par gagner. Fait que c'est après ça que ça a commencé à bien aller, puis on a gagné les séries, puis à Coupe TELUS, malheureusement, en finale, on a perdu.
Contre un de vos coéquipiers.
Avez-vous considéré, les gars, j'imagine vous avez eu des offres pour les universités américaines. Est-ce que vous avez considéré cette option-là?
Bah, moi, depuis le début, pour vrai, j'avais une idée en tête, okay. C'était d'aller à la GMQ, je viens d'ici, c'est comme, je sais pas comment dire, c'était ma première idée, puis j'ai eu une coupe d'offres, puis je les ai pris en considération, j'y regardais, mais je pense que pour mon développement, de continuer sur ce lancer-là, c'était la bonne affaire, là, fait que j'étais allé avec la GMQ.
Les gars, ben justement, on va en parler du repêchage, ça a été aussi un événement particulier cette année parce que les Sags qui vous ont repêché, finalement, il y avait beaucoup de rumeurs, beaucoup de tractations. Yannick Jean a fait des transactions, ça a brassé beaucoup, c'était excitant pour les amateurs et les commentateurs. Vous n'êtes pas obligé de tout me compter les tractations qu'il y a, mais on entendait des choses avant qui se sont avérées fausses. Donc, dans le fond, je pense que vous étiez très content d'aboutir avec les Saguenayens. Mais est-ce que vous avez trouvé ça quand même particulier, ces tractations-là, où j'imagine que vous avez des conseillers, des agents aussi qui vous aidaient dans le processus, puis à, tu sais, d'en prendre puis d'en laisser là, dans ce que vous entendiez à l'extérieur de tout ça?
Oui, ben c'est sûr qu'on se le fait dire, tu sais, pas trop penser à ça, de se concentrer sur ce qui va arriver, puis je pense que c'est ça qu'on a fait. On n'avait pas trop d'idées au début du draft, puis on a juste laissé ça aller, puis je pense que c'est de même que ça s'est fait. Puis en plus de savoir qu'il y avait 4 choix dans le top 8, c'était des bonnes chances.
Ouais,
mais c'était vraiment impressionnant. Quand on est sorti de se voir chacun, on avait joué ensemble au Jeu du Canada, puis on se connaissait. Fait que pour ma part, j'étais vraiment content d'être avec les 3 autres.
Là. Nathan aussi, il avait déjà son jacket au Clos des Sacs.
Oui, exact.
Puis est-ce que on parlait de Caleb Desnoyers tantôt, je ne sais pas si tu es très proche de lui, tu as joué avec lui, mais il y avait quand même vos deux noms qui apparaissaient beaucoup dans les rumeurs. Est-ce que c'était des choses que vous parliez ensemble ou pas vraiment ça? Toi, tu mettais pas d'importance de sortir premier ou deuxième ou troisième, ou vraiment il y avait comme un petit challenge, le fun entre les deux?
Non, mais pour vrai, ça me dérangeait pas pantoute. Je savais qu'il y avait des bonnes chances qui sortent avant moi, puis peu importe quel rang j'aurais sorti, j'aurais été content d'être repêché. Fait que ça me dérangeait pas, puis j'étais juste content pour lui.
Je pense que rendu là, que tu sortes un, tant que tu sors, tu sais, il y a des gars qui sont draftés 4, 5, 6e ronde, puis ils réussissent mieux. Je pense que l'important, c'est d'avoir sa chance.
Oui.
On dit souvent qu'il y a un moment
ça
où.
Ça met même une pression supplémentaire.
La place où tu as été repêché a plus d'importance.
Ouais.
C'est, qu'est-ce que tu apportes?
Exact.
Je pense que c'est toi, Émile. En tout cas, il y en a un de vous deux qui avait de la famille dans la région.
Oui, c'est moi. Ouais. Dans le fond, ma mère est née au Saguenay. Puis j'ai des grandes tantes qui habitent encore ici.
Okay.
Puis, ouais, c'est le fun.
Ben, c'est sûr, absolument.
Ouais.
Puis là, si on maintenant, on se transporte. Bon, après ça, le repêchage est passé, tout ça. On arrive au camp d'entraînement. Ben, toi, malheureusement, Émile, tu n'as pas pu commencer tout de suite au début. Mais est-ce que vous avez été. Je pense que l'organisation des Saguenayens est quand même réputée pour bien s'occuper de ses joueurs. Est-ce que vous avez été agréablement surpris ou c'était pas mal comme vous vous attendiez à la hauteur de vos attentes là, pour l'accueil puis le début de la saison?
Moi, je m'en attendais. T'sais, j'avais entendu plein de bons mots sur les Sags puis je savais que c'était une bonne organisation sur ça. Fait que quand je suis arrivé, c'était un peu... comme que je le voyais. J'ai été surpris une couple de fois, tu sais, ça, genre les choses qu'ils pouvaient amener, le staff, c'était différent, tout. Puis, tu sais, c'est sûr que le camp d'entraînement, c'était un peu stressant, là, mais j'allais jour le jour. Puis, tu sais, déjà au camp d'entraînement, j'apprenais de nouvelles choses. Puis, ben aimé ça pour vrai, le camp d'entraînement, là. C'est le fun.
Moi, j'aimerais bien dire que j'ai vraiment aimé ça, mais, tu sais, j'ai une mononucléose, puis, tu sais, c'est plate d'avoir manqué le camp. J'aurais aimé ça... le faire comme tout le monde, mais c'est des choses qui arrivent. C'est mieux que je pense que ça soit arrivé là, que ça soit arrivé pendant...
au mois de mars, mettons. Là, ouais.
Ouais, mais c'est ça, ça a quand même été dur.
Ouais, ben oui,
je filais pas vraiment, puis je regardais les gars jouer, puis moi je manquais ça, j'étais quand même triste, mais ben, c'est ça, là ça va mieux, puis je suis content que ça soit arrivé.
Quand on le voit, Émile...
Ben ouais, reprendre la game shape aussi, là, de mono, ça doit pas être évident.
Ouais, ben c'est ça, je pouvais m'entraîner, mais pas pratiquer avec les gars avec du contact, fait que j'allais quand même dans le gym, mais à cause de la rate, là, si t'éclates ça, okay. C'est quand même dangereux.
Ça fait du dégât.
Ouais, c'est ça.
Mais ça, concrètement, ça se passe comment, là, Émile? À partir du moment que t'arrives au camp... est-ce qu'il y avait déjà des signes, des symptômes, ou c'est vraiment avec l'intensité du camp que tu t'es rendu compte qu'il y a peut-être quelque chose qui n'allait pas?
Non, une semaine avant le camp, je commençais à avoir mal à la tête, puis de la fatigue. Puis là, mes parents me disaient « Ah, tu dois être stressé avant le camp. » Puis là, je disais « Ben ouais, mais tu sais, je savais que c'était pas normal, là, parce que j'étais pas tant stressé, mais après ça, j'ai fait une pratique ou deux avec les Sags, puis le lendemain, je filais pas pantoute, j'avais tellement mal à la gorge, j'étais fatigué, fait que... J'étais allé voir la physiothérapeute, puis elle m'a booké un rendez-vous directement.
Ça doit pas être une décision ou une nouvelle facile à encaisser. Là.
Non, c'est ça. J'ai su que j'avais une mononucléose, puis que je n'avais pour à peu près un mois, si c'est pas plus. Ouais. Fait que là, j'étais vraiment déçu, mais c'est comme j'ai dit, ça a bien été, puis là, c'est reparti.
Hey, si on regarde, les gars, bon, vous étiez dans le M18-3 l'année passée, qui est quand même du gros niveau de hockey. Mais là, quand on arrive dans la Ligue junior majeure du Québec, avec des joueurs souvent, tu sais, vous êtes des joueurs de 16 ans, faut pas l'oublier. Vos statistiques sont quand même au rendez-vous cette année, le plus
c'est pas
plus
parler de stats, Jeff.
Non, je sais, mais c'est pas ça que je
veux dire.
C'est pas pour ça que je veux dire. C'est que... c'est pas la même game là, quand vous arrivez au niveau junior. Comment vous avez trouvé ça? Parce que là, vous jouez contre du 19, 20 ans, 18 ans. La majorité là, des 16, il n'y en a presque pas. Puis des 17, c'est pas facile. Comment vous avez trouvé ça, la marche versus le M18-3A?
Je dirais pour moi, le style de la game était différent qu'au M18. T'sais, au M18, c'était les gars de 15 à 17. T'sais, les gars, il y avait les 17 ans, je trouvais qu'ils avaient développé leur shape d'homme un peu. Là.
Oui.
Mais je trouve que le 16 contre le 20, c'est un homme.
C'est
ça. Physiquement, je trouve que ça paraît. Ça m'a pris une couple de games au début, m'ajuster. Nouvelle
jouer au
équipe.
En plus.
Exact, c'est ça. Ouais. Fait que, comme j'ai dit, contre les autres gars un peu plus gros, je suis pas le plus gros non plus, mais jouer contre eux, comme j'ai dit, il fallait que je m'adapte un peu. Mais à mon année à 14 ans, là, c'était un peu semblable à ça. 14 contre 17, j'étais pas non plus le plus gros, le plus grand. Puis je pense que cette petite année-là, à 14 ans, a fait en sorte que l'ajustement cette année m'a aidé
c'est
un peu.
C'est intéressant, là, qu'est-ce que Nathan y apporte, parce que les fameux surclassements, c'est quelque chose qu'on a déjà discuté, puis dans ton cas, ça a fonctionné.
Heureusement, je pense que c'est du cas par cas.
C'est étonnant quand même, parce que t'es pas un gros bonhomme. Je présume qu'à 14 ans, c'était le cas aussi.
Oui, c'était la même chose.
Donc, c'était sûrement une décision basée sur ton calibre de hockey, parce que tant mieux. Parce que...
Et aussi, Marco, j'ajouterais, puis je vais te poser la question, Nathan, pour quand t'as commencé à 14 ans, est-ce que c'était aussi au niveau scolaire et au niveau peut-être de ta au niveau de la préparation mentale? Pas facile là, pour un jeune de 14 ans de jouer M18, mais toi, j'imagine qu'on a jugé que t'étais capable de le prendre là, comme individu.
Oui, exactement. Côté scolaire, c'est sûr, tu sais, si tu coules des cours, oublie ça, là, y a pas de surclassement, là, c'est sûr. Parce que, tu sais, tu manques des journées. Quand tu viens justement ici, moi, j'étais à Châteauguay, mais quand je viens à Jonquière, là, on reste une fin de semaine complète ou même les jours dans la semaine, c'est sûr que tu manques l'école. Fait que c'est sûr que t'as pas le temps de niaiser à l'école. Tu sais, faut que t'aies des bonnes notes, faut que tu sois à la coche. Puis, à l'école, je dirais que je suis quand même correct, là. Je suis pas le plus bolé, mettons, là, mais tu sais, je suis bien correct à l'école. J'ai une bonne moyenne dans chaque matière. Là.
Excellent. Maintenant, les gars, si on parle plus récemment, vous êtes allés, vous n'étiez pas dans la même équipe, mais vous avez tous les deux, là, je pense, vécu une belle expérience au championnat U17. Moi, ma grande question, c'est que ce tournoi-là, tu sais, on le suit, mais on arrive, tu sais, ça se parle comme pas vraiment, puis là, à un moment donné, ils nous envoient, ah, tiens, ça, c'est les deux équipes. OK, il y a là, je pense que c'est les blancs puis les noirs, ou les blancs puis les rouges. Mmh. Avant, il y avait trois équipes, blancs, noirs, bleus, là, c'est rendu deux. Moi, j'aimerais ça savoir, ça fonctionne comment? Est-ce que c'est l'organisation Hockey Canada qui, tout simplement, eux autres, ils nomment les coachs, puis les coachs choisissent des... Comment ça fonctionne? Où vous êtes informés de ça au préalable?
Ben, dans le fond, cet été, on a comme eu un courriel. Ben, dans le fond... Pour ma part, le coach adjoint, il m'a appelé, puis il m'a dit « t'es sélectionné pour le camp, dans le fond, des... » On était 66 au début de l'été, puis c'était des Zooms par Zoom. Puis des conférences, puis il nous parlait de toutes les règles d'Hockey Canada, de pas vraiment de système, mais juste des règles, pas mal
Canadian
ça.
Way, là, un peu, là, comment ça marche, comment
la façon
comment
que vous jouer, puis ouais, se comporter, puis ben c'est ça, comme une semaine, non. Deux semaines après? Ouais, mais avant le tournoi.
Deux semaines avant seulement.
Ouais,
okay.
Ouais.
On l'a su deux semaines avant.
Fait que dans le fond, ils ont observé votre début de saison, puis là, ils font leurs choix finaux.
Ouais, c'est ça.
Ouais, parce que là, ils n'ont pas le temps, évidemment, de refaire un camp. Est-ce que votre entraîneur, Yannick, lui, il était au courant en même temps que vous? Ben, il le sait un petit peu avant, vous ne le savez pas vraiment.
On ne le sait pas vraiment. Ouais, j'imagine qu'il l'a sûrement vu avant.
C'est sûr qu'il devait s'en attendre, là, on s'entend.
Mais le coach adjoint pour ma part, il m'a appelé, puis il m'a dit que j'avais été sélectionné pour l'équipe, puis lui avec, je pense que c'est la même chose, fait que c'est là qu'on l'a su. On l'a su la même journée, je pense.
Puis là, rendu maintenant au moment de jouer ce tournoi-là, est-ce que c'était dans les premières fois que vous évoluiez vraiment dans la scène internationale? Probablement, j'imagine, à part peut-être des choses hors concours l'été ou pas vraiment, aux États-Unis peut-être, mais là, c'est toute une expérience. Il y avait combien d'équipes au total dans ce tournoi-là?
Il y en avait six.
Donc deux du Canada.
Quatre
États-Unis, puis mettons Finlande, tu vois, c'est ça. Et là, vous revoyez là, des gars, j'imagine, là, que vous avez joué avec ou contre là, avant. Donc ça, c'était. Là, on a revu enfin le fameux duo Émile avec Desnoyers. Donc ça devait être le fun.
Non, c'était vraiment le fun. Ça faisait une couple de mois que je l'avais pas vu. T'sais, les retrouvailles, ça s'est bien passé. Le coach, il nous a mis sur le même trio. Fait qu'on était vraiment contents. Puis ça a vraiment bien été. Fait que c'était le fun de le revoir.
Êtes-vous satisfait? Ben, j'imagine que vous l'êtes parce que avec les résultats qu'on a connus pour vous deux, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé? Parce que ça vous a apporté une expérience supplémentaire pour ce qui s'en vient. Parce que T'sais, on dira que la victoire n'est pas importante, mais les sacs s'en viennent d'année en année, un club aspirant au championnat. Puis je pense qu'avec ça, ça vous a sûrement aidé, j'imagine. Hein?
Ben personnellement, moi ouais. T'sais, j'ai pas gagné l'or comme mon ami à côté.
T'as mais, quand même compté un gros but en prolongation.
Il a connu du succès. Ouais.
Ben, oui, exact. Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Mais je te laisse comme tu disais, t'sais, j'ai beaucoup appris là-bas. J'en reviens encore à ça, c'était comme pro style. C'est un short-term tournament, fait que t'as pas le temps de gosser. Puis, exact.
La machine,
c'est ça, la première game tu joues jusqu'à la dernière game. On avait une coupe des morning skate, mais t'sais, morning skate, c'est.
Des ajustements
exact,
mineurs,
c'est quoi. Ça, c'est 30 minutes, une coupe de power play, sortie de zone, système, puis tu sors après. Là. Fait que je dirais que le short-term, dans même, j'ai beaucoup appris de ça. Puis, comme Émile l'a dit, tu peux pas penser à rien. Il faut que tu joues jour après jour. Puis,
Vous avez gagné, Émile, avec votre équipe, les Blancs. Des constats sur les autres équipes, est-ce qu'il y a des choses qui vous frappent? Quand on. Vous venez de toucher à la scène internationale, là, est-ce qu'il y a des styles de jeu vraiment différents ou quelque chose au niveau des habiletés qui est marquant?
Ben. Oui, puis non, tu sais. C'est sûr que pas mal. Je sais pas trop quoi dire, là, mais c'est pas mal les mêmes types de joueurs que nous autres.
Je pense que le hockey international se ressemble de plus en plus.
Ouais,
c'est moins comme c'était avant, parce qu'il y avait plusieurs styles.
Mais aussi, corrige-moi si je me trompe, entre autres, les Américains, eux, ont tendance à regrouper leurs joueurs tous ensemble.
Joue longtemps.
Monter le programme, le fameux USA U18, là, bon, etc. Puis là, ils commencent U15, puis ça. Est-ce que c'était pas mal cette gang de gars-là, selon ce que vous constatiez?
Ouais, ben au début, on pensait que c'était eux autres la grosse équipe. On les avait joués, ils battaient les autres pays par des gros scores. Mais à part de ça, je pense que toutes les équipes étaient pas mal égales. Même eux autres, ils étaient pas bien meilleurs que tout le monde. Puis je pense que c'était des bonnes games, là. C'était pas des dominations par une équipe, là.
Puis vous aviez un autre de vos coéquipiers aussi, Alex Wang, qui était là aussi.
Ouais.
Ça, je pense que ça a bien été dans son cas aussi. Mm. Donc c'est vraiment le fun pour l'organisation puis les amateurs ici de voir trois jeunes. Il y a plusieurs gens qui parlent de Prud'homme aussi, que personne ne comprenait comment ça se fait qu'il n'était pas là. Mais en tout cas, ça c'est un autre dossier.
Ouais.
Ça aurait pu facilement être quatre. Ouais. Donc, j'imagine que pour vous autres, le groupe de jeunes, comme Luc le disait, je pense que vous allez construire là-dessus là, pour le futur aussi.
Oui, ben c'est sûr que on est vraiment, tu sais, je parle pas juste de nous quatre, mais on est vraiment un beau groupe cette année. Je pense que tout le monde s'entend vraiment bien. On a vraiment du fun dans la chambre. On fait des activités d'équipe et tout, mais c'est sûr que les quatre ensemble, on passe plus de temps vu qu'on est à la même école au secondaire. Puis je suis vraiment content d'être avec
ça. Ça doit aider, ça, Émile. T'sais. Comparativement, là, vous êtes quatre. Tu arriverais dans un club normal. Il y aurait peut-être 16 ans.
Ou deux. Ouais.
Peut-être deux. Là, vous êtes quatre. J'ai l'impression que ça aide un peu, ça, pour l'adaptation. C'est...
Moi, je trouve que, ouais, t'sais, pas juste nécessairement au hockey sur la glace, mais je dirais même en dehors. T'sais, on a comme toutes les. Pas les mêmes problèmes, mais T'sais, on vit toute la même affaire, que ce soit à l'école, t'sais, on peut s'aider. Moi, Émile puis Jonathan, on est dans la même classe, t'sais, on peut s'aider, on peut se donner des trucs, t'sais, on peut amener ça à l'aréna, la chimie. Je trouve qu'on crée. T'sais, je connaissais pas Émile avant, là, t'sais, ça a commencé avec Équipe Québec au Jeu du Canada, j'ai commencé à le connaître, mais t'sais, là, je trouve que depuis le début de l'année, que je sois avec lui à l'école, ça crée déjà une chimie qu'on peut transférer, mettons, sur la glace.
Ouais. Puis tu as dit quelque chose d'important, Émile, tantôt, que tout le groupe est vraiment soudé cette année. Faut pas oublier qu'il y a un autre gang les Maxime Massé, les Thomas de Ruisseau, qui ont passé par là tout de suite l'année passée. Alors que quand tu arrives dans des équipes où tu as beaucoup de 19-20 ans, j'imagine qu'il y a peut-être plus deux gangs là, dans l'équipe, puis les jeunes sont plus ensemble, puis les vétérans, alors que les SAG, là, il y a beaucoup de 17 ans aussi, puis de 18 ans, qui viennent juste de passer parce que vous êtes en train de vivre cette année.
Oui, ben c'est ça, c'est le fun. En plus, tu sais, ce qui est différent du junior puis du midget, c'est que dans le junior, on habite tout proche, on est tous en pension proche, fait qu'on peut faire des activités toute l'équipe. Tandis que dans le midget, mettons, pour ma part, moi, j'habitais à 45 minutes de où ce que je jouais. Fait que je pouvais pas vraiment passer du temps avec les joueurs qui habitaient, mettons, à Saint-Hyacinthe.
Ouais.
C'est ça que j'aime du junior aussi. On peut passer beaucoup de temps en équipe. Ça, c'est vraiment le fun.
La grande glace, visiblement, vous êtes à l'aise. On le voit par les résultats. Comment vous avez trouvé ça? plus difficile ou ben?
Au début, c'est une adaptation, je trouve. À force de jouer des games sur une glace normale, tu arrives d'un coup sec sur une glace olympique de même.
T'es battu, moi, tu sais.
Exact, c'est ça. Mais tu sais, je dirais que dans le camp d'entraînement, à force de faire de pratiquer à chaque fois sur cette glace-là, puis de jouer une coupe de match hors concours, quand je suis arrivé en début de saison, quand on jouait à la maison au Saint-Georges, c'était plus facile l'adaptation contre les autres équipes. À force de pratiquer là, comme j'ai dit, c'était plus facile. Mais l'affaire, c'est quand on change de glace. Tu pratiques toute la semaine au Saint-Georges sur une glace olympique. Vendredi, tu joues là. Tu t'en vas jouer à Bécomo. C'est petit. C'est une coupe d'adaptation. Mais non, j'aime ça. J'aime ça.
Puis, Luc a dit, on discutait tantôt, puis il y a un point qui est important aussi. Vous parliez du midget avec le junior. Là, on est encore quand même dans la première partie de la saison. La saison est longue au junior. Il y a beaucoup de matchs, beaucoup d'entraînements. Luc nous disait tantôt que je pense que vous jouez 7 matchs en 10 jours, les sacs bientôt. Ça, c'est tout un défi aussi, le nombre de matchs augmenté. Comment l'organisation vous prépare à ça? Là, je sais que je pense que Yannick a donné des jours de congé là, suite au match de vendredi. Est-ce qu'on essaye de bien doser vos périodes de repos pour affronter ce calendrier-là?
Ouais, tu sais, je pense que, comme tu as dit, Yannick, en fin de semaine, on a eu 2 jours de repos. C'est sûr, on essaie d'avoir le plus de repos possible, mais tu sais, selon moi, on a une coupe de training hors glace. Puis je pense que ça fait une grosse différence pour vrai les trainings hors glace dans une saison. Tu sais, juste de... Je dis pas de lever des gros poids, mais tu sais, juste de garder la forme, tu sais, garder ça, maintenir ça pendant l'hiver, tu sais, je pense que ça peut faire une grosse différence, là.
Tu sais, au début de l'année, on allait dans le gym puis on mettait un peu plus de poids, tu sais, vu que c'était le début de la saison, mais plus que la saison avance, plus qu'on fait des stretches, moins de poids, plus de repos, parce que le repos c'est vraiment important vu qu'à la fin de l'année c'est
juste le fait de ne pas s'habiller puis de pas aller sur la glace, hein. C'est de plus en plus populaire ça, tu sais, les fameux morning skate qui disparaissent là.
Ouais, puis casser la routine, prendre un petit peu de temps aussi en dehors des fois, ça donne le temps au cerveau de réfléchir à qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de moins bien aussi. Là, maintenant, j'ai une autre question sur l'équipe en tant que telle. Je pense que, vous le disiez tantôt, le groupe veut pas les appuis. Ça, je veux parce qu'on en a parlé tantôt avec Étienne, les attentes, faut pas vous mettre de pression avec ça, mais je sais que les jeunes, vous voulez bien faire, puis je sais que vous êtes conscient qu'on a tout un groupe actuellement avec les SAC pour l'avenir. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous en parlez entre vous autres, les joueurs, ou vous prenez ça vraiment un match à la fois, puis vous travaillez tous dans le même sens là-dessus, vous essayez de pas trop vous mettre de pression avec le futur là, des 3 prochaines saisons, dans le fond?
Ouais, ben je vais y aller.
Vas-y.
Ben, c'est sûr que on pense pas trop à ça. Ben, pour ma part, je pense pas trop à ça. Je pense que ça va venir tout seul. Puis c'est quand même pas dans une couple d'années, mais tu sais, le monde qui dit c'est dans 3 ans, grosse année, je sais que ils disent pas mal tout ça, mais tu sais, on peut aussi causer des surprises.
Parce qu'on est plus jeune que
ça veut absolument dire qu'on pourra pas faire des belles affaires cette année. Fait que moi, je pense pas trop à ça. Je joue ma game, puis je pense qu'on fait tout pas mal ça. Là.
Moi, ça ressemble un peu à Emile, qu'est-ce qu'il dit, tu sais, game après game. Je crois beaucoup à la constance.
Oui.
Tu sais, je pense que game après game, si on fait juste ce qu'on a à faire, on pense pas au gros but à la fin. Tu sais, comme je dis, travaille chaque game, on build sur ça. Chaque game, chaque fin de semaine, on fait un round-up de qu'est-ce qu'on a fait. Tu sais, je pense qu'on peut se rendre très loin.
Mm. Les gars, j'ai 2 questions pour vous autres. La première, vos objectifs. On parle d'objectifs d'équipe, c'est clair que rendu là, tu vas aller le plus loin possible. Mais vos objectifs personnels à vous deux, c'est quoi? C'est-tu, tu sais, oui, d'avoir des bonnes saisons juniors, mais est-ce que c'est d'aller dans le pro? Est-ce que vous avez des optiques d'aller jouer pro? Ligue américaine, Ligue nationale, tout ça. Puis ma deuxième question, comment vous trouvez, vous allez dire qu'ils sont beaux, sont fins, mais je veux vous l'entendre, comment vous trouvez les partisans des sacs? Bon, si on commence par vos objectifs personnels, les boys.
Ben, pour vrai, mon objectif personnel, c'est juste de m'améliorer à chaque jour. T'sais, je ne vais pas parler de points, puis de statistiques, puis ça, mais je pense que c'est juste de travailler fort, m'amuser, puis je sais que si je fais ça, ça va venir tout seul, là.
Pour moi, tu sais, c'est sûr, mon rêve, c'est de jouer dans la Ligue nationale, là, comme tous les petits gars, c'est sûr. Exact, c'est sûr, c'est ça mon but. Mais, tu sais, je reviens encore au mot constance. Pour moi, tu sais, c'est un gros, je pense c'est le mot-clé pour ma part. Présenter chaque jour à l'aréna, tu sais, pour les pratiques, pas nécessairement pour les matchs. À l'école, pour moi, ça fait partie de ça, tu sais, c'est comme... c'est une vie pour moi. Là. Exact,
pour
c'est ça. Fait que, comme j'ai dit, moi, jour après jour, année après année, puis tu sais, je pense que le reste va venir avec ça après. Là.
Absolument.
Les partisans sont trop durs ou... tu sais, moi, je compare toujours les partisans, je coutumais à ceux-là du Canadien un petit peu, tu sais, on commente, on pense qu'on connaît tout, mais on adore notre équipe. Là,
ouais, je pense qu'on a des partisans passionnés, on peut dire ça, là.
Ben pour ma part, je les aime bien les partisans.
Je veux pas vous mettre dans le trou, les boys.
Non, mais pour vrai, c'est sûr qu'il y en a qui disent des commentaires négatifs, mais moi, pour ma part, je regarde pas vraiment ça. Je sais qu'ils doivent mettre des commentaires sur les réseaux sociaux, mais je vais pas voir ça. Moi, je suis juste content qu'ils amènent de l'énergie à nos games, puis que ça fait une belle ambiance, puis que c'est vraiment le fun.
Ouais, ben comme Emile l'a dit, à nos games, beaucoup de partisans, je trouve, premièrement. Là, beaucoup de partisans, l'ambiance est belle. Comme Emile l'a dit, des fois, sont un peu rough, là, mais je pense que ça démontre qu'ils veulent et qu'ils sont des passionnés. Ouais.
Mais je pense, les gars, si on écoute ce que Étienne a dit, si on est derrière l'équipe, si on est positif, je pense que cette équipe-là va aller plus loin. De se sentir.
Plutôt que les étouffer avec la pression.
Exactement. Je pense que les gars... l'ont dit, puis c'est très brillant, c'est très intelligent, c'est juste de progresser. Ben,
on en parlait tantôt justement avec Étienne, tu sais, les jeunes maintenant, on peut lire, les jeunes sont renseignés, ils sont déjà conscients de tout ça. Là,
ben oui, quand même qu'on le dira demain matin, puis qu'on le dira en ondes, là, ben, Nathan puis Émile, ils ont le droit, c'est une mauvaise marche. Ben, je pense que vous le savez, les gars.
On s'en va. Ça avec le hockey rendu là.
Tu sais, je pense qu'on pourrait faire ça, nous autres.
Mais on ne dira pas demain. On ne dira pas demain. Puis sur notre page Facebook, quand il y a des commentaires qui deviennent un peu virulents ou qu'on sent qu'il y a un peu d'argumentation qui part pas dans le sens où est-ce qu'on veut aller, on intervient rapidement.
Absolument. Parce que absolument.
C'est important.
Moi, ce que j'aime, les gars, par encore, on l'a vu de chacun de vous dans les deux. J'étais là jeudi et vendredi. Moi, c'est la qualité de vos tirs respectifs. Moi, j'étais un gars qui trippe sur les shots là, au hockey. Nathan, il a mis un beau top corner en power play, puis Emile, vendredi, il a mis toute une aussi le long de l'aile, en tout cas. Fait que ça, c'est des... Je pense que vous avez des shots de pro. Déjà, les gars, c'est vraiment le fun. Puis c'est excitant pour les partisans des SAG, pas juste de voir vous deux, mais tous vos coéquipiers, vos jeunes coéquipiers qui nous épatent. Puis on va vous appuyer durant les prochaines saisons en espérant que vous allez être avec nous autres longtemps. Vas-y, Marco.
Les gars ont été super bons. Là.
Oui.
Souvent, quand on invite des jeunes... Puis c'est difficile de sortir quelque chose de concret ou là, je pense qu'il va falloir que vous reveniez avec le temps.
J'aimerais bien ça.
Vous êtes ici pour quelques années.
Ils sont pas mal meilleurs que le jeu de mots qu'ils ont fait sur Émile quand il a compté son but. L'as-tu vu?
Ouais.
Tu l'as vu? C'est pas vrai. J'agace Mathieu, là, qui peut-être c'est lui qui a fait ça, mais c'est très drôle.
Ah, c'est un bon jeu de mots.
Ouais,
bon
jeu de mots. Hey, merci les boys.
Merci beaucoup. Puis bonne chance pour la saison. Puis on va vous suivre, c'est bien certain. Ben, merci beaucoup.
Merci.
De notre côté, on s'en va à la pause. Tout de suite après, le troisième segment de notre émission.
Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus, vous aimeriez vous dépasser. Faites confiance à l'équipe de GI Performance, l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence.
L'Association de hockey mineur de Saguenay, pour l'épanouissement et le développement de vos jeunes dans une ambiance saine et sportive. On mise sur le déroulement de nos activités dans le plus grand des respects. Association de hockey mineur de Saguenay, trouvez-nous en ligne ou sur Facebook.
La Voix Maltée de Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voix Maltée vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM.
Tu veux te développer en tant que joueur de hockey? Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey. Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion Hockey.
De retour au podcast Par la bande pour notre troisième segment de l'émission. Alors, messieurs, c'était très, très, très intéressant.
Et instructif.
Et instructif. Nos deux premiers segments, là, sérieux, les gars. On a appris beaucoup de choses. Puis,
ben moi, j'ai appris, honnêtement, oui, là, oui, sur les gars, qui oui, étaient Émile et Nathan. Puis sur Étienne, j'ai appris oui, des choses, les gars.
Carrément.
Ben oui. Je vais effectivement changer mon... Malgré que...
On y pense.
On
déjà,
y pense, oui, mais je vais oui, la changer plus mon évaluation au niveau de la game, même si, tu sais, au lieu de parler de victoire, de défaite, puis on en parle aussi des fois.
Oui.
Mais je pense qu'il faut aller au-delà de tout ça. Puis je pense que si on veut que les Sacs connaissent du succès, puis nos équipes régionales, oui, des fois, il faut le dire quand ça marche pas, puis c'est correct.
Oui.
Mais il faut peut-être l'analyser différemment.
Absolument. Non?
Parce que, ben oui, parce que de toute façon, de notre point de vue, même si on est très présent sur les réseaux sociaux,
ouais,
présent au match, on n'aura jamais toute l'information. Hein? Surtout, on parle à des jeunes de 16 ans là, qui vivent leurs choses d'adolescents, l'école, leurs parents, etc. Donc, de notre point de vue, là, ce ne sera jamais une analyse. Il faut se garder une réserve. C'est là où je veux aller.
Absolument.
Moi, je trouve que les deux segments se complétaient très bien.
Oui. Oui.
C'est de parler de l'aspect psychologique de pression, puis de recevoir deux jeunes en développement, deux jeunes.
Puis ils vont en avoir élites, de la pression, joueurs, ces gars-là. On s'entend. Ouais, ouais.
On s'entend que c'est des jeunes qui déjà sont je dirais pas qu'ils sont étiquetés.
Ben oui.
Mais
ben
un oui, peu. Ben je veux dire, quand ils sortent deuxième puis quatrième, ben on attend.
T'as pas le choix, ça vient avec, malheureusement.
Absolument. Ben oui. C'est ça. Mais je pense que les gars le savent, puis je pense qu'ils sont bien entourés. Puis c'est la façon de l'amener comme je me rappelle pas si c'est Nathan qui le disait, c'est d'avoir de la constance, c'est de puis Émile le disait aussi, c'est d'avoir du plaisir. Faut en avoir, puis les partisans, faut qu'on ait du plaisir aussi dans les estrades, puis
les laisser ouais, avoir du exact, plaisir dans qu'est-ce qu'ils ont à vivre là-dedans, tu sais, puis ils sont entourés, ils s'entourent entre eux autres. Ils l'exprimaient bien, les gars, ils sont quatre, plus l'expérience de tu sais d'un Desruisseaux puis d'un Massé également qui sont tout jeunes. Écoute, regardons-les ouais, grandir.
Moi, je pense qu'il faut qu'on bâtisse. C'est drôle ce que je dis. Faut que les partisans et les fans des Sacs bâtissent sur cette entrevue-là qu'on a vue avec ces joueurs-là, qu'on voit le minding qu'ils ont, qu'est-ce que ça leur prend pour performer, pour avoir du succès.
Oui.
Je pense que c'est plus d'être derrière eux que d'analyser victoire, défaite, puis d'analyser, bon, il y a un mauvais match, pas grave, mon homme, tu te reprendras oui, dans l'autre. T'sais. Ça va arriver des mauvaises games, ça va arriver qu'ils vont manger des volets, ça va arriver qu'ils vont être mauvais. Ben, je pense qu'il faut continuer.
Mauvais ou pas, au niveau où est-ce
ouais, ouais, mais,
être, parce que la saison, on a parlé, c'est long. C'est long. Ouais. 68 matchs. Ouais. Là, rendu, ce que je me dis, février, au mois de février, il y a toujours un petit down d'intensité.
Ils sont conscients que c'est une longue saison, mais on n'est rien qu'à mi-novembre. Parce qu'on est le 20 novembre. Là, il y a encore beaucoup d'autres.
Ça, je pense qu'on pourrait faire quasiment une émission complète là-dessus sur le nombre de matchs en ce ouais, ligue-là.
On ouais, en parle souvent.
Il faudra peut-être, là, on manque de temps, là, mais il faudra y penser. Là,
mais Luc,
je sais qu'on ne fera
avec
rien.
Avec quel
intérêt? 30 ans, on parlait de ça, déjà, ouais, au junior.
Ben, tu sais, ça m'amène un peu, les gars. Un oui, peu, je vais comparer victoire-défaite à faire de l'argent pour faire d'argent. Là, la Ligue focus, tu sais, victoire-défaite, bon, on ne focus pas là-dessus, on focus sur le succès. Bon, les propriétaires des équipes, malheureusement, focus sur quoi?
Ben, ça dépend.
Ils focus sur la victoire, puis ils focus sur l'argent.
Mais
c'est normal.
Dépend, mais ça dépend.
Fait que c'est pour, dans le sens que je veux dire, c'est pour ça qu'ils veulent des matchs, parce qu'il faut que ça... Faut que ça soit rentable. Mais
t'as plus de dépenses en jouant plus de matchs
ben
aussi.
Oui, mais pas autant que quand t'as 2500 personnes dans l'aréna.
Oui.
Tu sais, je veux dire, ça te coûte pas 2500 personnes à la Bécomo.
C'est ça.
Tu comprends?
Je comprends.
T'sais, non, non, mais
c'était pas rentable, il en jouerait moins.
Non, mais c'est ça, vous comprenez ce que je veux oui, dire. T'sais, c'est qu'on veut, en tout cas, peut-être que c'est dans ma tête que je me comprends, mais je ben, sais pas si je suis capable d'imaginer.
À Québec, l'année passée, là, à 15 000 de moyenne, non? Combien vous pensez qu'ils ont fait?
Ouais, ça, c'est une autre game. Là,
non, mais tu sais, ou Halifax, ou tu sais. La question, la réponse est dans la question, ah, les gars.
Absolument. Mais on en parle
aussi. Mais c'est ça, c'est un gros dossier.
Ouais.
Effectivement. Ouais. Effectivement. Ben justement, là, on a parlé de différents sujets. Puis si on revient, on peut commencer avec les sacs parce qu'on était là-dedans. Comment ça s'est passé dans les deux dernières semaines? Alors, moi, j'étais là jeudi et vendredi. Les gars, vous étiez là jeudi. Vendredi, Luc est allé au Marquis. On va en parler tantôt. Alors, je pense que là, on le voit du côté des sacs. Je pense qu'il y a une progression, mais c'est toujours à travailler. Je pense que le match de jeudi a été peut-être un petit peu mieux que vendredi, qui est vendredi. Je pense que les Sags ont dominé le match, mais encore une fois, on manque d'opportunistes, beaucoup. Est-ce que c'est plus en raison? Moi, je pense que c'est manque peut-être un petit peu d'agressivité autour du filet. C'est peut-être ça.
Ce qui est un peu étonnant, c'est que dans les deux semaines, c'est dans la deuxième, c'est lors du deuxième match qu'on a le moins bien performé.
Exact.
Est-ce que c'est parce qu'on a connu un très bon premier match? Ça va être le cas contre Val-d'Or aussi. Le premier match a été très bon, le deuxième a été moins bon. Même chose en fin de semaine.
Les Sea Dogs, d'ailleurs, ont surpris Rimouski aussi hier en plus. Ouais, donc, je pense que c'est une équipe peut-être qu'on... Je sais pas si on l'a pris à la légère ou sur papier, on devait gagner le match. Je pense qu'on dominait le match, mais ça voulait pas... La rondelle voulait pas nécessairement rentrer autant qu'on le voudrait. Puis par la suite, en fin de match...
mais de toute façon, là, les gars, là, je suis venu faire une chronique à Femme de sport qui est en onde cette semaine, à Nous TV, Le Fjord. Et puis... Je disais à Mathieu, qui est l'animateur, Mathieu Savoir qu'on connaît bien, c'est à ça que je m'attendais. C'est une jeune équipe.
Absolument.
On joue pour 500.
On est bien au classement.
C'était des matchs où est-ce qu'on aurait pu coller.
Un match en haut de 500.
Ramasser toutes ces victoires-là, les deux, dans les deux semaines, les deux matchs collés, mais c'est pas arrivé. Puis c'est un peu normal. Ça fait partie du processus.
Absolument.
Moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai pas vu le match de samedi, là, de vendredi contre les
Sacs. Ben, je pense qu'il y a du positif aussi du côté des Sacs. On l'a senti tantôt de Nathan que de changer de patinoire, c'est pas facile.
Ben oui.
Ça, c'est rare que les gars vont dire ça, mais puis il n'y a pas tard.
Il y a eu une autre adaptation là, aussi. On a refait des lignes quand les trois gars sont partis au Mondial.
En plus.
Les trois gars. Les Sacs avaient quand même connu du succès sans les trois gars, là. Peut-être un avantage numérique, on s'ennuyait un peu de leurs habiletés, on va dire ça comme ça, mais bref, quand ils sont revenus, ben il a fallu réorganiser les lignes, puis il faut se donner le temps à ce que la chimie se refasse. Donc,
ben, exactement. Puis là, c'est pas parce que c'était notre invité, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il a
fait.
Non, mais dans les matchs, là, je l'ai revu, Nathan aussi a bien fait ça, mais je trouve qu'Émile Guité, il a ressorti beaucoup. On voit ça avec sa mono.
Mais il part de loin. Je pense qu'Émile Guité progresse. Même Nathan, le compte progresse les deux.
Il y a combien de Marco? T'avais des statistiques. Si on veut pas parler de statistiques.
Alors, on s'en mal.
Non, mais pour des 16 ans, c'est quand même.
Wow, parle pas trop de stats.
Mine de rien, avec le début de saison que Émile avait eu, qui est un petit peu plus lent en raison du fait qu'il n'y a pas eu de camp, mais il y a 5 buts, 8 passes, 13 points en 17 matchs.
17 matchs pour un 16 ans.
Pour un 16 ans.
Quelque chose.
C'est quelque chose.
Nathan
5-5 pour 10 points en 17 matchs également.
Très, très bon.
Vraiment, là, impressionnant.
Ben, oui, puis il y a aussi, je pense qu'on a réglé le cas du côté des gardiens.
Oui.
Je pense, ça c'est mon feeling personnel, je pense qu'on a trouvé nos deux gardiens du côté des Sacs, puis je pense qu'on va terminer la saison comme ça, on le verra. Là, on n'a pas de détails concernant tout ça, mais je pense que là, on a Fernandez, puis on a
Préco
qui fait... Es-tu bon? Ben, moi, personnellement, je le trouve calme, je le trouve solide, donne rarement des mauvais retours, je le trouve bon.
Ben, moi, ce que j'ai aimé, les gars, dans le match de vendredi, parce que vous l'avez vu dans le match de jeudi, il était très bon. Vendredi, il a donné un mauvais but en partant, mais il a bien réagi. C'est ça que j'ai aimé pour un jeune gardien comme ça. Il ne s'est pas laissé déconcentrer. Je pense qu'il aurait aimé ça revoir le fameux but qui passe en dessous du bras. C'est des buts que tu ne veux pas donner, mais au lieu de baisser les bras, je pense qu'il s'est calmé. Puis il a été très bon dans le restant du match. Donc, c'est encourageant de ce côté-là.
Ça, c'est, tu sais, Raphaël Précourt, là, c'est l'exemple parfait du tu sais, quand on dit lors d'un camp d'entraînement, vas-y, mets tes bottes de travail, puis vole la place de quelqu'un, ben, c'est ce qu'il a fait. Là, vous me direz que dans le cas de Ruggiero, avec la saison qu'il a connue l'année passée, il n'y avait pas une place assurée, c'est bien certain. Mais ça reste que, ben, ça reste qu'il était là depuis l'année passée.
Il
y avait déjà l'équipement aux couleurs.
Fallait qu'il soit outstanding.
Oui, c'est ça.
Très outstanding. Fait que dans le fond, il n'est pas encore parti, mais.
Puis on se questionnait sur le fait de garder trois gardiens, mais on peut comprendre le processus de réflexion de l'organisation qui. qui devait être peut-être un peu plus long que le camp d'entraînement.
Puis, là, on parle des gardiens, puis on en reparlera probablement que dans l'autre émission. Parce qu'à un moment donné, il ne pourra pas garder des gardiens en vitam internam. Tout ça, on dit?
Absolument. Ben, c'est absolument.
Puis, donc, on devrait le savoir d'ici la prochaine émission.
Oui. Cette semaine, on part sur la route.
Oui. Jonathan Prudhomme, les boys.
Oui.
Solide.
Très solide. Hein?
Vraiment solide.
C'est le joueur le plus puni de la ligue.
Je trouve quand même, là je critique
mais
pas.
Mais il n'est pas indiscipliné, mais non, il est solide.
Non, je trouve quand même que parfois, il essaie peut-être d'en faire un peu trop.
C'est normal.
C'est normal, mais ouais. Moi, si j'étais...
J'aime mieux qu'il en fasse trop.
J'avais un feedback à donner de France, là. C'est ce que je dirais, mais...
Mais ça se pourrait-tu que les entraîneurs disent, gars, joue ta game, amène ta game
dans la game. C'est fort possible, puis il le fait très bien. Ça va être ça, sa game, là, c'est évident. Puis on parlait de stats pour un 16 ans tantôt. Pour les 16 ans, c'est impressionnant aussi qu'est-ce qu'il fait, de rivaliser physiquement comme ça. Il ne cède pas un pouce là, de territoire.
Il en a ramassé un jeudi.
Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, ce gars-là à 19 ans dans cette ligue-là... C'est un solide bonhomme.
Puis un coup de génie, là, pour finir là-dessus, les gars. Un coup de génie de Yannick Jean, le nouveau joueur de 20 ans.
Ah.
Ben oui.
Armstrong.
Oui.
Moi, j'ai critiqué au début.
Oui, mais...
Vous le savez, mais je suis très impressionnant.
Il joue bien. Il est intense. Il joue bien des deux côtés de la patinoire. Produit aussi offensivement. Il joue en désavantage numérique aussi.
En désavantage numérique. Il a aimé son travail. Là, je pense honnêtement que, là, tu le disais, Marco, là, on s'en va sur la route. Là, prochain match est jeudi seulement. Je pense que ça va faire du bien. Là. Presque une semaine sans jouer comme ça.
Les gars vont avoir faim. Hein,
oui,
exactement. Faim de jouer au hockey, t'as hâte.
On joue 7 en 10.
7 en 10, là, ça va être... Oui. Exactement.
Mais il y a des matchs, je n'ai pas vu la deuxième semaine, mais en tout cas, les matchs de cette semaine, c'est des matchs à la portée des Sags. Fait que, on va regarder ça aller.
Exact.
Je pense les Marquis. Les Sags, ouais, les Marquis.
Les Marquis, un seul match. Luc, tu étais là. On avait des représentants partout. Donc, Luc était là vendredi soir.
Ouais.
Je pense que les Marquis, malheureusement, ont subi une défaite de 6-3, mais tu as quand même aimé ce que tu as vu là, durant cette
partie. Aide-moi avec l'alignement. J'essayais de voir l'alignement tantôt. Je suis tout mêlé.
Par quoi je commence, là? L'alignement?
Vas-y avec tes notes.
Parce que j'ai tous les joueurs qui sont rentrés et sont sortis depuis. Mais non, honnêtement, je pense que les Marquis là, puis méritent un meilleur sort. Tu sais, des fois, on est dur envers eux autres, mais j'ai trouvé qu'ils ont joué un bon match. Offensivement, on crée beaucoup de choses. Je pense qu'ils ont plus de chances de marquer que
Laval,
excusez-moi. Oui. Ils ont beaucoup plus de chances de marquer. Ils ont été intenses. Physiquement, ils ont été bons. T'sais, ça a brassé aussi ce match-là. Là. C'est un match qui a eu beaucoup de bagarres. Ben, en fait, rien que d'un bord, parce que Laval n'avait pas amené de tough. Là. Je pense que Laval était venu pour gagner, puis c'est tout. Là.
Tout le monde est revenu là, du côté des Marquis.
Oui. Okay. Non, Paradis est toujours blessé.
Paradis est blessé.
Il y en a un autre aussi. Ah oui, exact. Tout le monde est revenu. Mais là, Brashear va être suspendu deux matchs. Les deux prochaines parties. Brashear, en passant, très surpris, les gars.
Okay,
bon, il a compté un but, donc son premier but dans la ligue nord-américaine de hockey. Je l'ai trouvé intense. Il patine autant que bien des gars à 51 ans. C'était surprenant. Puis physiquement, je pense que j'ai pas vu la dernière bataille parce que j'étais parti un petit peu avant. Là.
Un petit peu fatigué. Comme on connaît ton habitude. il y avait des problèmes.
C'est ça. Fait que j'étais surpris de Donald Brashear également. Mais je pense qu'on s'en vient sur la bonne voie. Je pense que ça prend, là, puis je pourrais en parler à Bob, puis il nous dirait probablement la même chose. Là, je pense que Bob a fait beaucoup de travail au niveau des échanges, mais là, ça prend de la stabilité.
Ouais.
Déçu un petit peu, je vais revenir sur la stabilité, mais déçu un petit peu du côté des gardiens de but. Je pense qu'on devra en donner un petit peu plus du côté de Cadorette puis de Bérubé. Certains buts, des arrêts clés qui n'ont pas été faits. Je pense que ça n'a pas aidé au momentum du match non plus, puis des derniers matchs aussi, puisque les Marquis sont sur une séquence quand même de 3 défaites. Là. Donc là-dessus, les gardiens vont... va falloir que tu ailles un petit peu plus fort, peut-être ramener le fameux Émile Samson un match ou deux, peut-être, pour excusez le terme, mais
ramener de la compétition.
Ramener de la compétition à l'interne. Parce que
c'est sûr que de simplement alterner, dans une routine.
Peut-être qu'il y a comme tu disais tantôt, Marco, il y a des choses qu'on ne sait pas, puis peut-être que les gars, ça va mener, puis c'est pas évident de changer d'équipe. Mais c'est ça, quand on disait d'amener de la stabilité, depuis 3 semaines, les gars. Sam Thibault, qui est le nouveau, Samuel Thibault, qui est le défenseur. Nouveau défenseur, est excellent. Je l'ai vraiment aimé. Vous allez l'aimer aussi, que vous allez le voir.
Est-ce que c'est de lui que Bob,
oui,
j'ai compris, qu'il travaillait là-dessus depuis longtemps.
Oui. Puis vraiment, c'est une très bonne acquisition de la défensive. Il est solide, il est physique, il est défensivement, il est excellent. Je pense qu'ils n'ont pas donné grand-chose aux Marquis, malgré 6 buts, là, vous allez me dire, mais dont un d'un filet désert, ils n'ont pas donné grand-chose. Donc, Samuel Thibault qui est rentré, Anthony Gagnon, on a signé Antoine Guimond, Luc Leclerc, on était cherché Joël Ratel, Yannick Riendeau qui a bien fait, Joël Ratel qui est excellent aussi, bon, Olivier Leblanc qui est en Europe. On a perdu Labbé, Rangé, Drolet, Lepage, Gauthier, Poulin. Fait que ça, c'est tout ça en dedans de 3 semaines. Est-ce que les transactions sont bonnes? Selon moi, oui. Sauf que, ça, comme je dis, dans ce ligue-là, est-ce qu'on pourrait amener, mettre une limite sur les transactions? Parce qu'il y en a beaucoup. Ça ne doit pas être évident non plus pour les joueurs de changer.
Les partisans non plus.
C'est ça. C'est ce que je trouve un petit peu tannant. Est-ce que, comme je vous dis, les transactions sont excellentes?
J'ai un sentiment d'appartenance année après année.
C'est ça.
Là, je vais voir 2-3 matchs. J'aime ça. Tu sais, j'aime ça. Il y a des gars que j'aime, finalement. 2 semaines après, le gars que j'avais aimé, il n'est plus là.
Ça devient difficile.
Je
ne dois
pas être le seul, puis je n'achète pas de gilet avec le nom dans le dos. Là.
Non, tu ne peux pas.
Je dis ça demain.
À part si tu es un régional, tu peux.
Ouais, OK. Mais,
parce que les régionaux font tout un job. Simon-Claude Blackburn joue encore. Christian Ouellet joue bien, tu sais. Mais tu sais, si on peut mettre un petit peu un bémol là-dessus, je pense que là, ça prend de la stabilité, comme je me répète encore, puis qu'on construit avec l'équipe qu'on a présentement. Je pense qu'on a du leadership. Je pense que défensivement, c'est amélioré. Je pense que dans les buts, ça va se replacer aussi, même si présentement, c'est pas bon.
Théoriquement, oui. Mais je veux dire, c'est deux gardiens.
Mais je pense que, mais tu sais, Bob n'est pas du genre à rester les bras croisés, fait que ça pourrait arriver qu'il nous fasse une transaction, sauf que ça pourrait lui nuire au bout de la ligne. Dans le sens que c'est pas évident, que tu le disais.
Ça bouge toujours ton vestiaire quand tu passes sur un gars.
Fait que, à suivre, peut-être c'est, il est allé chercher les derniers joueurs qu'il voulait ou qu'il pensait. Est-ce qu'il va y avoir des transactions mineures? Peut-être. Mais je pense qu'il faut garder le noyau qu'on a. Puis je pense qu'on a un bon noyau du côté des Marquis. Puis l'affiche ne reflète pas, je pense, que ce que l'équipe peut donner selon moi.
Parfait, excellent.
Je vais aller voir ça.
Des élites rapidement, parce qu'ils ont seulement joué une partie la semaine passée. C'était à Trois-Rivières. Ouais. Alors, c'est sûr que du côté des élites, la division est très forte là, avec Trois-Rivières, avec Lévis. L'autre, il m'en manque une là, qui est
SSF. Le bizarre,
c'est la première équipe de la Ligue.
C'est ça. Ouais. Fait, là, on va affronter Notre-Dame là, en fin de semaine. Alors, ça risque d'être intéressant du côté des élites. Donc, c'est sûr qu'ils étaient sur la route. Donc, on n'a pas vu nécessairement ce qui s'est passé de ce côté-là. Mais, évidemment, on vous encourage et on vous invite à aller les encourager en fin de semaine. Parce qu'en fin de semaine, les Sacs ne sont pas à domicile. Les Marquis ont un match, il faut le dire, vendredi soir. Seulement un match encore une fois en fin de semaine du côté de Jonquière. Du côté des Inuk, ben, on va en parler parce que ça a commencé en fin de semaine. À domicile, là, je veux dire.
Une
victoire, une défaite face à Concordia.
Je te laisse aller rapidement. Là, j'avais le plan d'y aller le samedi, là, malheureusement, pour des raisons de logistique familiale, de transport. Je t'avais de me racheter une calèche. Mais tu des choses.
Je peux te passer un cheval.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ben oui, c'est vrai. J'avais peur qu'on se retrouve dans un décor comme ça.
J'ai créé tout un monstre, les gars. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, la story avec le cheval, là, je sais pas si les gars l'ont vu, là, René, Martin et Thomas-Xavier, mais je voulais demander. J'ai dit, ça sent-tu l'air niaiseux? Mais finalement, là, le monde en redemande. Donc, les gars, va falloir passer dans 2 semaines une autre idée pour annoncer notre show.
Alors, on va vous avouer quelque chose en plus, parce que là, on est dans le thème country. Puis vendredi soir, c'était la soirée country au sein. Alors, on a joué du country, puis il y avait des gens qui dansaient du country.
Tu es allé aussi
à l'endroit. Non, je suis pas allé danser. Mais par contre, avec toutes les tout country qui jouaient, ben, je vous avoue que j'ai une petite passion cachée. Des fois, je fais du karaoké chez nous, des fois, le samedi soir avec ma fille. Et puis là, j'avais la toune de Gambler de Kenny Rogers dans la tête. Là, j'ai ajouté ça dans ma playlist. Donc, alors.
Mais c'est pour revenir aux Inuk, quoi. Deux victoires, deux défaites. Là, je parlais que Simon est gentil parce que Simon fait un compte rendu à chaque match vocal. Donc, ça me permet de faire des pauses. Bon, c'est un peu l'entente qu'on a pris cette année. Là. Je veux dire, on est prêt à donner de la visibilité aux organisations, mais on peut pas être à tous les matchs là, à un moment donné. On essaye bien, mais on essaye d'aller à tous les matchs, mais on va y aller.
On va y aller, absolument.
Mais Simon, très content de ce week-end. Là. 5 bonnes périodes sur 6. Donc, je pense qu'il aurait pu gagner aussi 2 matchs facilement ce week-end. Là. Il y a une période qui a été plus difficile, qui a été fatale, manqué beaucoup d'opportunistes. Un deuxième match en moins de 18 heures aussi contre la même équipe, c'est jamais évident. Quelques joueurs qui se sont démarqués. Tommy Deblois, 3 buts, 2 passes. Thomas Larouche, 5 points. Jacob Bernard, 5 points. Mathieu Lavoie, oui, le capitaine de l'équipe. Oui. Mathieu Lavoie, 5 points. Zachary Gagné, 5 points. Donc,
Zachary Gagné, un petit gars d'Héberville.
Bon, ben tant mieux. Puis, un petit gars du lac.
Oui.
Donc,
on est
bien parti du côté des Inuks. C'est pas évident à suivre, excusez-moi, une saison à 3 équipes, puis je comprends aussi, tu sais, il y en a qui ont décroché de tout ça, mais je pense que ça va être intéressant quand même de suivre ça, parce que la rivalité va être excellente.
Oui, c'est sûr. Absolument.
Moi, Concordia, je les aime pas déjà.
On parlait du lac, les gars, moment où est-ce qu'on se parle, ben on a recommencé à patiner au Centre Mario Tremblay.
Hey, ça, oui. C'est une bonne nouvelle.
C'est la bonne nouvelle.
La gang arrivé.
Des Janois. Non,
la pièce est arrivée.
Je suis pas allé, mais j'ai regardé la fin de semaine là, du côté, oui, du côté de Pascal, la troupe de Pascal Hudon. Bon, c'est une victoire, une défaite, oui, là, dans le cas de Division 1. Division 2, là, depuis la visite de Christian, ça va un peu moins bien. Leur début de saison était surprenant, puis je regardais victoire-défaite. Mais comme on le sait, on joue au hockey pour le plaisir.
Exactement.
C'est pas
et c'est
si
l'évolution.
Important.
Mais là, on va faire quoi, les gars, si on peut parler de victoire-défaite?
On va écouter.
Non, mais on va commencer
par ça.
Oui, oui, c'est
on
ça.
Hey, il reste pas grand temps pour les variables. Oui, 4 minutes.
On a le temps.
Vas-y, Marco, de ton bord.
Non, ben vas-y. Ben, c'était le 70e anniversaire de Ligue JMS.
Oui, on va essayer de faire quelque chose après les fêtes.
Oui.
Moi, j'ai le goût de recevoir des anciens du National Junior, des Marquis, des anciens des Marquis, des Sacs, des Aiglons.
Le problème qu'on a, c'est que si on demande aux organisations de nous écrire, là, il y a trop d'équipes.
Oui, c'est ça. Nos shows sont déjà beaucoup.
Mais on pourrait inviter les gens, là, parce que, tu sais, il y a du hockey partout, que ce soit les Sacs, le Junior 2A joue à la baie, les Marquis jouent à Keno, le Alma, les Aiglons, je pense que c'est les Aiglons.
Oui, les Aiglons.
Ben, Robert Val, puis...
Normandin,
exactement. Donc, allez voir des matchs, là, puis le Midget aussi, le moins de 18. C'est ce que j'avais. Je te laisse aller. Je sais que tu en as d'autres, non, Luc?
Ben oui, il y a deux joueurs des Espoirs M17 qui ont été sélectionnés. Là, Charles-Antoine Dallaire et Elliot Plourde qui ont été, on les voit à l'écran. Wow. Merci, Martin. Wow. Qui participeront à la Coupe LHJMQ du 14 au 17 décembre prochain. Pardon, c'est en marge du Challenge de la Ligue M18-3A. Donc, félicitations, les garçons.
Donc, ça, c'est des équipes de 14 ans.
Exact. Non, c'est du M17, ça.
Ah, ça, c'est une dire, OK, c'est espoir. Okay.
C'est de l'espoir. Donc, je ne sais pas si c'est nouveau ou ça fait pas longtemps que c'est là. Rapidement, nouvelle équipe dans la Ligue de hockey senior du lac comment?
Ben, la Ligue va. Je pensais que tu avais un scoop là, sur le nouveau nom de la Ligue.
Non.
La Ligue, la
c'est toi qui l'as.
Ben, du lac. À la capitale. Parce que là, ça serait Pont-Rouge qu'on ajoute.
Oui, ça serait Pont-Rouge, puis on parle de peut-être d'une autre équipe.
C'est Pont-Rouge.
Oui, c'est
Pont-Rouge.
Un retour dans le temps.
Je trouve ça drôle de l'annoncer aussitôt. C'est sûr qu'avec la perte de Saint-Bruno, Saint-Bruno Métabetchouane.
Moi, ce qui me fait peur, les gars, c'est que ça décourage les équipes qui arrivaient à vivre ici.
Ben, ouais. C'est ça.
OK.
Mais on leur souhaite pas, au contraire, on voudrait que ça fonctionne, mais je pense qu'il faut pas oublier l'essentiel de ce ligue-là, puis des fois garder ça simple, c'est bon.
Il y a des joueurs qui jouent dans la ligue actuellement qui m'ont dit ça va devenir tough d'aller jouer là-bas, parce que dans le gros marché de Québec, tu arrives là-bas puis ils ont plusieurs joueurs qui ont joué dans la ligue nord-américaine, alors que c'était censé être une ligue de seniors dehors régionale.
Et Pont-Rouge, pas loin de 3 heures aussi de route. Là.
Oui.
On rajoute un bon 45 minutes au Québec.
Oui, c'est ça. T'es parti à 12-13 heures.
C'est ça pas paraît.
Tu sais, quand t'as une famille, puis
tu
travailles.
Il y a moins de mal.
En principe, c'est pas une ligue à salaire. On sait pas toutes, les gars.
En principe, effectivement.
Vincent Collard.
Oui.
Vincent Collard, 3 buts, c'est un petit gars d'ici. Il a été échangé du Drakkar de Bécomo, Wildcats de Moncton.
Tant mieux pour lui, hein,
Moncton, excusez-moi. Là, on voit justement
très,
à l'écran. Là.
Très bon début
encore
de saison.
Encore Martin
Moncton,
sur la coche. Donc, 3 buts pour Vincent Collard. Je pense qu'il a fait du bien, un petit changement d'air. Je pense qu'on lui laisse plus de place offensivement à Moncton.
Parce qu'il joue avec
rien contre Bécomo. Probablement que c'est le style de jeu qui est différent. Là.
Il joue avec Desnoyers à Moncton?
Je sais pas. Ben là, c'est deux joueurs de centre. Ben Vincent peut jouer à l'aile ou au centre.
Bonne question.
Là.
Il a l'air à jouer à droite là-dessus. Okay, ouais. Court.
Mais c'est okay. Ça. Donc, félicitations à Vincent. J'avais d'autres points, mais je pense qu'on est pas mal over the top.
On va. Ouais. On s'améliore, les gars.
Oui.
Dans notre gestion du temps.
Oui. Non, on voulait parler des Kings de Los Angeles. Ben oui.
Kings de Québec. Tu avais même écrit Québec dans tes notes.
Puis, restez à la.
Avez-vous l'intention d'y aller?
Oui, non.
Non,
pas toi.
Moi non plus.
Rapidement,
non.
Les gars, deux choses.
Oui.
S'il y a des équipes. Tu sais, on n'est pas journaliste, puis on fait ça bénévolement, puis on ne peut pas se déplacer partout. Si vous voulez parler de vos équipes, il arrive. Parle pas d'un match de saison régulière 3-2, là. Il y a un événement particulier,
organisation
des tournois, ou peu importe, quelqu'un a sauvé une vie d'une équipe, peu importe, quelque chose de spécifique.
Quelque chose de drôle aussi.
De drôle, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de le partager. Et puis suivez-nous bientôt, on va tenter une expérience. Là, oui, on manque de temps ici, mais on va essayer de travailler d'autres choses là, sur le web qui s'en vient. Ouais. Donc, parce que on promet rien.
On peut dire on a encore une émission le 4, donc en deux semaines. Ouais. Par la suite, ça va être la pause des fêtes. On va être de retour le 8 janvier. Si on peut l'annoncer tout de suite.
Ouais, oui, ça,
mais on va peut-être avoir un petit quelque chose entre les deux.
C'est ça, exactement.
Hey, les gars, va falloir s'arrêter là-dessus. C'est tout le temps qu'on a. Merci à toute l'équipe. À René, Martin, merci à Thomas Xavier également, notre technicien. Et merci à tout le monde qui nous écoute. Donc, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup. Épisode numéro 6 maintenant conclu. On se revoit dans deux semaines. Podcast par la bande. Merci beaucoup.
Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.